Interrompteur, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première conférence 2015 du Cercle Royal Art Histoire de Jean Blou. L'année dernière, vous vous en souviendrez, c'est à la Première Guerre mondiale que nous avons consacré notre cycle de conférences dans le cadre des commémorations du début de la Grande Guerre. Cette année, c'est d'un autre centenaire et même d'un bicentenaire dont il s'agit, puisque, vous ne pouvez plus l'ignorer, nous avons les diverses et nombreuses manifestations liées à la bataille de Waterloo du 18 juin 1815. Une bataille dont l'issue allait redessiner profondément l'avenir et la carte des pays européens, en particulier le nôtre, ou ce qui allait devenir le nôtre quelques 15 ans plus tard. Aujourd'hui toutefois, nous n'allons pas nous lancer, enfin je ne pense pas, dans la géopolitique, mais bien tenter d'en savoir plus sur la campagne napoléonienne de 1815, restée dans l'histoire comme la période des 100 jours, et en particulier sur les événements qui se sont passés ici dans notre région dans les jours qui ont précédé le 18 juin. Pour nous en parler, nous avons fait appel à un spécialiste de l'histoire napoléonienne, en l'occurrence à M. Dominique Timmermans, que je remercie déjà d'avoir bien voulu nous rejoindre et être notre conférencier ce soir. Monsieur Timmermans est licencié en philologie romane et titulaire du diplôme d'études européennes, traducteur, auteur, journaliste, mais aussi lieutenant-colonel de réserve. Il est surtout pour nous ce soir un observateur avisé et un acteur engagé de l'épopée napoléonienne. Président de l'Association franco-européenne de Waterloo, vice-président de l'Association pour la conservation des monuments napoléoniens et le directeur de son bulletin, vice-président des Amis de Ligny, délégué local du Souvenir français pour la conservation des monuments napoléoniens en Belgique, membre d'honneur de la Société napoléonienne internationale et membre de nombreuses autres associations napoléoniennes. Il fera le plaisir de m'excuser de ne pas pouvoir les citer tous. Notre conférencier de ce soir est à l'initiative de plusieurs actions pour la sauvegarde de monuments et de lieux historiques de l'Empire français et est l'auteur de plusieurs articles pour la revue de la Société royale belge d'études napoléoniennes, pour la revue des Amis de Ligny, pour celle du souvenir napoléonien et encore... Larsen est là, oui. Et encore pour les revues Gloire et Empire, et Tradition Napoléon Ier. Il est aussi le créateur d'un site internet sur les monuments de l'Empire, le site www.napoléon-monuments.eu, je répéterai l'adresse tout à l'heure, un site qui, avec ses quelques 650 pages et 5000 photos, est très très bien documenté. J'ai eu l'occasion de le parcourir cet après-midi, entre deux travaux professionnels, et un site qui recueille un beau succès d'estime avec, à ce jour, si je compte bien, plus d'1 million de visiteurs. Monsieur Timmermans est bien entendu aussi un conférencier aguerri des thèmes napoléoniens et a eu l'occasion de présenter de nombreux exposés sur la campagne de 1809, celle de 1813 ou encore celle de 1814. Et c'est de celle de 1815 dont il sera question ce soir. Sans plus attendre, je lui cède la parole pour nous faire découvrir ou redécouvrir les traces de la campagne napoléonienne de 1815. Merci.
Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Alors, je vous invite cette fois-ci sur les traces de la campagne de 1815. Sur les traces, parce que nous allons sur les champs de bataille, mais je ne vais pas évidemment me limiter aux champs de bataille. Je vais vous expliquer également le comment et le pourquoi. Comme sous-titre, j'ai mis une vue sur Waterloo, ma vue personnelle, parce qu'il y a, je crois, autant de vues et de perspectives qu'il y a d'auteurs, et Waterloo dans un sens large, évidemment, là, toute cette campagne. Alors, j'ai mis en épigraphe ce texte du colonel de Marbeau, commandant du 7e hussard, qui a dit « On nous a fait manœuvrer comme des citrouilles. Une autre version, c'est comme des huîtres, mais dans les deux cas, vous imaginez que ce n'est pas très flatteur. » Et c'est un peu ce qui ressort de l'impression que les soldats français ont eue après la bataille. Par contre, le duc de Wellington a dit « the nearest grand thing you ever saw in your life » pour dire qu'il s'en est vraiment fallu de peu que l'issue soit différente. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe en 1815, il faut remonter un an plus tôt, en 1814. Le 31 mars 1814, les coalisés prennent Paris. Le 3 avril, le Sénat déclare la déchéance de Napoléon. Le 4 avril, il abdique en faveur de son fils. Et c'est pour ça qu'on fera toujours référence à Napoléon II, même s'il n'a pas vraiment régné. Le 6 avril, c'est l'abdication sans condition de l'empereur, ici, donc dans ce salon du château de Fontainebleau. Le 11 avril est signé, entre Napoléon et les puissances, le traité de Fontainebleau. Et il est très important pour la suite. Bon, je ne vais pas tout lire, mais ce traité dit que donc l'empereur Napoléon garde son titre, etc., etc., mais il renonce au trône de France et au royaume d'Italie. Deuxièmement, ils conservent leur titre, mais ce qui est le plus important, c'est l'article 3, où il est bien mentionné que l'île d'Elbe est donnée à Napoléon pour son lieu de séjour, sa vie durant, elle sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété. Il sera donné en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de 2 millions de francs. Et c'est un peu là, je dirais, le début de la campagne 1815, c'est ces 2 millions de francs qui sont convenus de par le traité de Fontainebleau et qui ne seront jamais versés à Napoléon avec les conséquences que nous allons voir. Le 30 mai, le premier traité de Paris, mais à l'époque on ne savait pas que ce serait le premier, le traité de Paris est signé. Le 20 avril, Napoléon fait ses adieux à sa garde. Et ensuite, évidemment, vous avez tous entendu parler du congrès de Vienne, du 18 septembre au 9 juin 1815, le congrès va se réunir à Vienne. Toutes les puissances européennes sont là, et même pas que des puissances, tout le monde veut être là, certains États libres qui sont des villes d'Allemagne veulent également avoir leurs représentants, parce que c'est très important, c'est là qu'on va décider du sort. Mais évidemment, tout se fera entre la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche, la Russie et la France. Parce que donc la France a son siège et surtout Talleyrand jouera un très grand rôle. Voilà l'Europe telle qu'elle se présentait en 1810, donc à l'apogée de l'Empire. Vous voyez, c'est le grand empire des 130 départements. En 1815, voilà ce qu'il en reste de la France et voilà la nouvelle carte qui a été dessinée par le congrès de Vienne. Et vous voyez donc ici, la Russie a conquis en 1808 la Finlande au détriment de la Suède. Elle va le garder, elle va manger une grande partie de la Pologne, va également bénéficier d'une partie de la Bessarabie au détriment de la Turquie. La Prusse va fortement s'étendre également, vous voyez, en fait il y a un état qui disparaît, c'est le duché de Varsovie. Donc la Pologne est de nouveau partagée entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, principalement la Prusse. L'Autriche est très contente parce qu'elle récupère le nord de l'Italie, qui a été un de ses principaux objectifs pendant les campagnes. Et également, donc, nous avons le royaume de Sardaigne. Et vous allez me dire, la Grande-Bretagne a été le grand financier des coalitions. Eh bien, elle a la domination des mers, elle reçoit la petite île d'Heligoland, également, elle est confirmée de Gibraltar et Malte. Ça lui suffit, elle va récupérer l'Afrique du Sud, et donc elle va régner en maître sur les océans pour le siècle à venir. Alors, les raisons du retour de Napoléon. Premièrement, il n'a pas le choix. Pourquoi n'a-t-il pas le choix? Ayant abdiqué, lui a respecté son engagement. Il a abdiqué, il a renoncé au trône de France, mais par contre, les Bourbons ne respectent pas leurs engagements en refusant de payer ces 2 millions de francs. C'est-à-dire que pour gérer l'île d'Elbe, qui n'est pas si petite que ça, Napoléon y va de son propre portefeuille. Mais il sait très bien, c'est calculé, fin 1815, il n'aura plus un seul franc. Il a une petite armée, il a engagé des travaux, de voiries, et autres dans l'île d'Elbe pour développer l'île d'Elbe. Tout ça, parce que c'est une île assez pauvre, donc il n'a aucun moyen. Tout ça, ça a été fait et engagé sur base de ces 2 millions de francs. Alors, autre chose, les fidèles, environ un petit millier d'hommes qu'il a accompagnés, ce sont tous des Français, enfin il y a quelques Polonais, il y a quelques Italiens, mais principalement des Français, s'ils restent avec Napoléon, ils seront déchus de la nationalité française en 17. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose après cette date, ils ne pourront plus rentrer en France, ils seront considérés comme des étrangers. Alors, le retour est en fait en grande partie provoqué par les puissances coalisées, parce qu'ils se sont dit, finalement, l'île d'Elbe, c'est bien trop près et Napoléon est trop dangereux. Donc, ils vont le pousser à la faute pour pouvoir ensuite le liquider. Napoléon, en plus, a des échos de France. Il sait que son retour est souhaité. Il sait également qu'il y a des complots, parce qu'il a aussi ses agents un peu partout, entre autres à Vienne, pour l'éliminer, pour l'assassiner ou pour le déporter. Et déjà à Sainte-Hélène. Donc, quand on dit que Sainte-Hélène, c'est une punition parce que Napoléon est revenu pendant 100 jours, c'est tout à fait faux. Le projet de le déporter à l'île de Sainte-Hélène existait déjà avant qu'il ne remette le pied en France. Alors donc on peut dire, comme le traité de Fontainebleau est caduc, Napoléon a respecté sa part, les Bourbons n'ont pas respecté la leur, mais finalement on peut dire en quelque sorte que son retour est légitime, parce qu'il ne fait que reprendre ce qu'il a donné. Ça, c'était les raisons du point de vue de l'île d'Elbe, du point de vue de Napoléon. Maintenant, voyons en France. La noblesse de l'Ancien Régime n'accepte pas du tout celle de l'Empire. Le meilleur exemple, c'est la princesse de la Moscova, donc l'épouse du maréchal Ney, qui est méprisée à la cour de France, à tel point que Ney va faire un scandale. Tout ça, il ne supporte pas qu'on méprise son épouse. Il y a une double dévalorisation de la Légion d'honneur. D'une part, la Légion d'honneur, vous devez savoir ce que c'était. C'était vraiment la première fois que n'importe qui, pour ses mérites, avait droit à un titre. Avant, les titres étaient respectés, réservés aux nobles. Donc, la double dévalorisation, c'est que la Légion d'honneur va prendre rang après tous les titres, l'ordre d'Ulysse, l'ordre de Saint-Louis, etc. Donc, quantité négligeable. En plus, Napoléon, en 10 ans, a nommé 30 000 légionnaires, chevaliers de la Légion d'honneur. Louis XVIII, en 10 mois, va en nommer 10 000. Vraiment pour noyer, et en plus pour des gens qui, la plupart du temps, ont passé 20 ans hors de France. Donc vous imaginez là le mécontentement de ceux qui ont la Légion d'honneur. Alors l'armée est très mécontente, parce que des gens qui, pendant 20 ans, se sont prélassés dans un château en Angleterre, en Russie, arrivent, ils n'ont jamais vu des troupes, et prennent le commandement de troupes au-dessus de soldats de Napoléon qui ont commandé pendant 20 ans et qui ont fait 20 ans de campagne. Il y a également une chasse aux officiers de l'Empire. Il y a, par exemple, le procès d'Aixelmans, qui est un grand cavalier. Et donc, ceci, c'est bien avant les 100 jours. Et celui qui a joué un rôle tout à fait vicieux là-dedans, c'est Soult. Le maréchal Soult, que nous reverrons tout à l'heure, et quand on dit qu'il a très mal joué son rôle, eh bien, il était également mal vu, parce que déjà il tirait dans le dos de ses anciens camarades, la preuve, ce procès au général Aixelmans. Les demi-soldes, évidemment, l'armée va être réduite à la portion congrue, donc on va devoir licencier plein de gens, des gens qui pendant 20 ans ont fait des campagnes, sont parfois arrivés à un grade important, et du jour au lendemain, on les exile dans leur département, ils sont obligés de résider à moins d'une demi-journée du chef-lieu du département de naissance, quelque chose comme ça. En plus, ils n'ont pas seulement une demi-solde, mais en plus, c'est la moitié de la pension qu'ils touchent. Donc, c'est quasiment rien, ils ne savent pas en vivre. En plus, on leur interdit d'exercer un métier. Donc, vous voyez, c'est pas évident pour eux. Alors, ils savent qu'on veut éliminer Napoléon, évidemment, ils ne sont pas contents. Il y a un mécontentement de la population, dans un sens large, plutôt les couches les plus basses de la population, qui se dit, tout cela pour ça. Finalement, on a fait la révolution, on a fait 20 ans de guerre, et finalement, on revient à l'ancienne situation. Louis XVIII, sur papier, est devenu un monarque constitutionnel. Il y a une charte. Oui, mais ils ne la respectent pas. Donc finalement, c'est comme s'il n'y en avait pas. Alors, finalement, ça va provoquer le vol de l'Aigle, 26 février embarquement, 1er mars débarquement au golfe Juan, 7 mars rencontre de Lafray, le septième de ligne envoyé par le roi pour arrêter Napoléon va se mettre aux ordres de Napoléon, et dans ce septième de ligne, il y a deux bataillons d'un régiment qui a été dissous, le 112e de ligne. Eh bien, je peux vous dire que ce 112e de ligne était presque exclusivement composé de Belges. Donc le 112e était composé de Belges, il y avait quatre bataillons, on en a pris deux, le régiment est dissous, est envoyé au 7e de ligne. Évidemment, ces Belges, ils sont très contents de voir Napoléon, ils ne vont certainement pas lui tirer dessus, parce que c'est pour eux une chance de faire réintégrer leur village natal dans l'Empire où ils sont, enfin dans la France où ils sont toujours. Donc c'est un rôle non négligeable des Belges. 7 mars, entrée triomphale à Grenoble, le 10 à Lyon, le 13 mars, entrée triomphale de Napoléon à Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône, c'est pas vraiment une grande métropole, il y a 60 000 personnes qui viennent l'acclamer. Alors quand certains historiens comme Thierry Lenz disent que que le retour de Napoléon c'est un coup d'État militaire, un coup d'État où il y a 60 000 personnes qui viennent se rassembler pour accueillir Napoléon alors que la ville n'en compte que 20 000, je ne sais pas vraiment si c'est un coup d'État militaire. Le 20 mars, c'est l'entrée triomphale à Paris. Bon, célèbre tableau, la rencontre de Lafray, deux dessins, les Tuileries. Le 19 mars, le roi Louis quitte. Et le 20 mars, Napoléon est accueilli en triomphateur. Alors, les 100 jours, quelques faits marquants. Le vol de l'Aigle, j'en ai parlé. Le 9 mars, il y a le complot ou la conspiration du Nord. On en parle très peu. C'est une vraie tentative militaire d'une partie de l'armée, mais une partie de l'armée tout à fait manipulée par Fouché, qui dit à des généraux comme l'Allemand Hydro et d'Erlon, tous vos positions sont découvertes, vous allez être arrêtés. Donc eux, pour ne pas être arrêtés, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent leurs troupes et ils essayent de soulever l'armée en faveur de Napoléon. Ça se fait le 9 mars, mais c'est dans le nord. Ça veut dire en fait qu'ils ne savent pas. Fouché n'a pas dit que Napoléon revenait, mais il sait que c'est le moment rêvé et ce complot du Nord va échouer. Il va échouer par qui? Par l'entremise de Mortier. Mortier qu'on verra tout à l'heure. Et pour moi, c'est une des raisons principales pour lesquelles il va refuser, enfin il ne va pas refuser, il va accompagner Napoléon jusque à la frontière. Et là, il va dire, ah, j'ai une crise sciatique. Et il rentre à la maison. Pour moi, c'est une crise tout à fait diplomatique. C'est parce qu'il ne voulait pas se retrouver avec des gens qu'il avait fait arrêter. Une grande partie de ceux qui ont participé à cette conspiration du Nord vont être condamnés à mort, certains seront exécutés au retour de Louis XVIII. Le 13 mars, Napoléon est déclaré hors la loi par le Congrès de Vienne. Ce qui est très bizarre, c'est que le Congrès de Vienne utilise là une notion en fait extraite du droit canonique. Ça n'existe à l'époque pas dans le droit international. Donc ils vont chercher quelque chose dans le droit canonique, le droit de l'Église, pour dire Napoléon est hors la loi. C'est quand même assez bizarre. Donc, le 22 mars, autre chose, il y a la constitution de l'armée du Midi. Parce que c'est vrai que Napoléon revient et qu'il reconquiert son trône sans tirer un seul coup de fusil. C'est tout à fait vrai, sans effusion de sang. Mais le 22 mars, donc deux jours après l'arrivée de Napoléon à Paris, dans le Midi, il y a du côté des royalistes quand même quelqu'un qui a un peu plus de courage, un peu plus de dynamisme, c'est le duc d'Angoulême, le fils du comte d'Artois, le comte d'Artois qui est le frère de Louis XVIII et qui sera le futur Charles X. Il rassemble environ 10 000 hommes. De l'autre côté, le 24 mars, Napoléon lâche du lest. Un maximum, il veut avoir un soutien le plus large possible. Il supprime la censure qui avait existé sous l'Empire, qui existait toujours sous Louis XVIII. Il la supprime. Le 25 mars, les coalisés créent la 7e coalition contre Napoléon. 29 mars, le décret impérial d'abolition de la traite des Noirs. Bon, je ne vais pas entrer en détail, mais encore une indication que Napoléon veut un empire le plus libéral possible. Le 26 mars, Murat, qui est le beau-frère de Napoléon, et qui est toujours resté roi de Naples. Il est resté roi de Naples, pourquoi? Parce qu'il a trahi Napoléon en 1814, et contre l'avis de Napoléon, il va déclarer la guerre à l'Autriche. Grossière erreur. Napoléon lui déconseille, il le fait quand même. Le 30 mars, il fait le manifeste de Rimini. Il s'adresse aux Italiens disant « c'est le moment de faire l'unification de l'Italie ». Le 2 avril, il y a le combat de l'Oriol, donc ce que nous avons vu ici, l'armée du duc d'Angoulême remporte une victoire à l'Oriol. Le 3 mai, Murat remporte également une victoire, mais donc dans le sud de l'Italie. Le 4 avril, Napoléon adresse une lettre au souverain étranger disant « il ne veut que la paix ». Le 4 avril également, il accepte le traité de Paris du 30 mai 14, qui avait donc été signé sur son compte l'année auparavant. Le 6 avril, c'est la débandade royaliste, il n'y a pas eu beaucoup de combats. Tout simplement, au fur et à mesure que ça progresse, les soldats qui étaient sous le duc d'Angoulême passent du côté des troupes fidèles à Napoléon. Le 8, c'est la convention de la Palue, et Napoléon va être très magnanime. Il va permettre, il n'y a aucune représaille. Le duc d'Angoulême recevra un sauf-conduit pour apprendre le bateau. Il n'y aura aucune représaille. C'est très bizarre parce que ce soulèvement a eu lieu dans une région qui se manifestera après la défaite de Napoléon comme celui où il y aura la plus grande répression, les plus grands lynchages de soldats de Napoléon. C'est-à-dire, Napoléon a été très magnanime, et bien les gens de ces endroits vont se venger plus tard. Alors, autre chose qui se passe à l'autre bout du monde, 10 avril 1815, l'éruption du volcan Tambora en Indonésie, qui va propulser dans les airs 160 km² de roches, vous imaginez ce que c'est, va provoquer 11 000 morts directes et 49 000 morts indirectes. Et ça va provoquer ce qu'on a appelé, vous connaissez peut-être, un hiver nucléaire. Il y aura une telle densité de poussière volcanique dans les couches de l'atmosphère que pendant plusieurs années, le soleil va très faiblement percer dans certaines régions. Ça va provoquer, on dit même qu'en 1816, il n'y a pas eu d'été. Et en 1815, il est très vraisemblable que ça a provoqué de très fortes perturbations météorologiques et entre autres toute la pluie qui va saboter les plans de Napoléon. Il se peut très bien que ce soit ce volcan qui en est la cause. Alors, le 22 avril, c'est l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire qui sera approuvé par plébiscite et une nouvelle offre de paix de Napoléon. En réponse, il est mis au banc des nations et un renouvellement entre les alliés du traité de Chaumont. Le traité de Chaumont a été signé le 8 mars 14, et par ce traité, les pays que vous voyez, Russie, Autriche, Prusse et Royaume-Uni, s'engagent à tenir en campagne une armée active de 150 000 hommes. C'est le Royaume-Uni qui fournit annuellement un subside de 120 millions de francs. Donc la Grande-Bretagne est vraiment, elle a été pendant 20 ans, mais est encore le grand financier. Pour ça, Napoléon, s'il élimine l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, il sait qu'il n'y aura plus de coalition contre lui. Alors, mai 1815, début du soulèvement en Vendée. La Vendée a toujours été très royaliste. 3 mai, défaite de Murat. Le 3 mai également, une rencontre pas tellement loin d'ici entre Wellington et Blücher à Tirlemont. Le 12 mai, les alliés conviennent de ne signer aucune paix avant d'avoir abattu Napoléon. En fait, ça équivaut au traité de Chaumont. Le 15 mai, une nouvelle défaite de Murat. Et le 20 mai, par le traité de Casalanza en Italie, Murat est déchu de son titre de roi. Donc, c'est un allié en moins pour Napoléon. Le 22 mai, il y a une élection en France. Je vous ai dit, c'est très démocratique, c'est beaucoup plus démocratique que ce que ça a été et que c'était sous Louis XVIII. Mais cette chambre est très hostile à Napoléon. Les bonapartistes sont en minorité. Et donc, Napoléon va devoir gouverner avec un parlement qui lui est hostile. C'est très délicat, évidemment, surtout quand on fait la guerre. Alors, le 1er juin, c'est le champ de mai, proclamation officielle de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Et également, le 1er juin, mort de Berthier. Berthier, le maréchal Berthier, a été le chef d'état-major de Napoléon. C'est vraiment l'homme qui s'est transposé en ordre les idées de Napoléon. Il meurt d'une façon mystérieuse, on ne sait toujours pas comment, accident, assassinat, mais il va lui manquer. 4 juin, distribution des aigles. 9 juin, signature du traité de Vienne, fin du congrès de Vienne. Et le 12, Napoléon part pour l'armée. Alors, un bref coup d'œil, revenons sur Murat. Il déclare la guerre à l'Autriche. le manifeste de Rimini le 30, il appelle les Italiens au soulèvement. Tout, il y a, effectivement, quand les Italiens apprennent ça, il y a des scènes de joie partout, mais quand il s'agit de prendre les armes, il n'y a plus personne. Donc, le soulèvement escompté ne vient pas. Le 3, il remporte une victoire, mais le 8, déjà une première défaite. Le 28 avril, il fait un grand discours ici, à Fano, à ce balcon, mais dans une relative indifférence. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le panneau, la plaque commémorative qui a été posée récemment, donc par des Italiens, et dans lequel il est mis, sur lequel il est mis, un premier signe des temps pas encore mûrs pour le rêve radieux. Donc c'est vraiment, ici, Murat est quand même considéré comme un dilettante, si pas comme un traître, parce qu'il y a plusieurs fois retourné sa veste. Mais en Italie, il est toujours adoré comme un héros, parce que c'est le premier à avoir vraiment exprimé ce rêve d'une Italie unie. Ça se trouve encore de nos jours sur les monuments, même récents. Le rêve radieux, c'est l'unification italienne. Il faudra encore attendre une cinquantaine d'années, et surtout, il faudra attendre l'arrivée de Napoléon III. Alors, la fin, il est battu. Il doit démissionner, enfin il est destitué, il s'enfuit en France, et là Napoléon ne veut pas le voir, il n'a quand même pas oublié qu'il l'a vraiment trahi l'année précédente, et donc Napoléon le regrettera, parce qu'il se dit que peut-être Murat aurait été plus efficace que Ney. C'est vraisemblable, est-ce que ça aurait vraiment changé l'issue? Je ne sais pas. Après Waterloo, il s'enfuit en exil en Corse, et là il va faire ses propres 100 jours, il va essayer de revenir, parce qu'il y a des agents autrichiens qui ont fait croire que effectivement les gens voulaient son retour, mais évidemment c'est une manipulation, parce qu'en fait il va débarquer au Pisa, qui est une région où, quand il était roi, il a fortement combattu les brigands et le banditisme. Et comme la plupart des gens en vivaient, eh bien, il va être vendu, il va être subir un procès expéditif, et dans la demi-heure, il va être fusillé. Alors, pendant ce temps-là, des choses beaucoup plus calmes. Le gros Louis XVIII, il séjourne à Gand, et d'ailleurs, les Français, par dérision, ils l'appelaient notre père de Gand. Et alors, encore mieux, les Gantois croyaient qu'il transpirait beaucoup, parce qu'ils disaient Louis XVIII, qui transpire. Et donc, ils logeaient. Donc, cette maison-là a été le palais du roi. Et juste en face, je vais être très méchant, il y avait son petit chien, il y avait Wellington qui logeait en face dans un autre hôtel. Par contre, la plupart du temps, Wellington résidait au 54 de la rue Royale à Bruxelles. Je suppose que vous reconnaissez l'endroit. Le parc royal est juste en face, ici. C'est un ancien bâtiment qui a également appartenu, je crois, à la Générale de Banque. Tandis que le prince d'Orange, lui, loge au 12 rue de la Loi. C'est de nos jours un ministère, le 12, c'est deux maisons à côté du 16 rue de la Loi. Je crois que c'est le ministre des Finances. Alors, la situation géopolitique, c'est ça. Le royaume de Naples, on peut déjà le barrer, et on a en face tous ces pays, quoi, tout le monde. Mais quels pays vont compter dans cette campagne? Le Royaume-Uni, la Prusse et les Pays-Bas. C'est, en gros, c'est les principaux. Alors, l'Empire. Très attention, il faut faire très attention, très important, l'Empire n'est plus l'Empire de 1804-1814. Ce n'est plus la même chose, Napoléon est beaucoup plus démocratique et il doit gouverner avec une chambre qui lui est hostile. Il n'est plus le chef, il a un pouvoir limité, ce n'est plus l'empereur qu'on a connu auparavant, ça joue un rôle. L'armée est celle qu'il a héritée de Louis XVIII. Il y a donc méfiance, rivalité, trahison, Soult, Mortier, j'en ai déjà parlé. Il y a une méfiance de la troupe envers ses chefs. C'est une très bonne armée, mais au moral très friable. Il y a de bons éléments à récupérer, retour des prisonniers, ceux qui étaient prisonniers en Russie, en Autriche, en Prusse, qui étaient sur les pontons des Anglais ou qui étaient à Cabrera, les quelques survivants. Donc ces gens-là ont plutôt envie d'en découdre, évidemment. C'est une armée en forte infériorité numérique. Mais l'armée, et ça c'est vrai, c'est le pilier du régime. Il n'ose pas introduire la conscription. Donc il ne faut pas dire, il n'y a pas eu de conscription en 1815. Il va uniquement devoir combattre avec les troupes qu'il a déjà eues, les soldats qu'il avait auparavant. Et alors, grande question, l'empereur est-il encore le génie militaire d'avant? On peut en douter. Alors en face, la situation au Royaume-Uni, c'est un gouvernement conservateur au pouvoir. Et beaucoup de gens voient la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, comme quelque chose de monolithique. Ce n'est pas vrai, il y a une opposition libérale. Cette opposition libérale, elle est tout à fait favorable à Napoléon, mais elle est muselée. Pourquoi ? Tout simplement parce que dire « on est favorable à Napoléon », ça passe pour dire « je suis un traître ». Et donc, c'est très difficile pour les libéraux britanniques de dire quelque chose, mais certains ne se gênent pas pour dire qu'ils sont favorables à Napoléon. Donc, si Napoléon peut provoquer la chute du gouvernement conservateur, il aura en face un allié en la personne d'un gouvernement libéral, et on peut être sûr qu'il y aura la paix. Pourquoi ? Parce que quand les libéraux ont été au pouvoir, il y a eu le traité d'Amiens, il y avait la paix entre l'Empire et la Grande-Bretagne. Donc, si on remet les libéraux au pouvoir, il y aura toujours la paix. Il n'y aura plus de financement de la coalition, et toutes les armées russes, autrichiennes, prussiennes devront rentrer à la maison parce qu'on ne peut plus les payer. Et c'est ça l'objectif de Napoléon. Le Royaume-Uni a une très bonne armée, mais elle est faible en effectif. En plus, les troupes sont dispersées. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne était en guerre avec les États-Unis jusqu'en décembre 1814, par le traité signé à Gand, notez bien. Mais le temps que ça arrive, les troupes, donc il y a eu de nombreuses batailles après la signature de la paix, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas. Les communications ne sont pas celles que nous avons de nos jours, évidemment. Et en plus, un grand nombre de très bonnes troupes sont encore au Canada. Donc, Wellington ne pourra pas compter sur elle. La Royal Navy, c'est évidemment la meilleure au monde, et pour vous donner une idée, la Royal Navy, c'est 25% du budget annuel du Royaume-Uni. Donc, un quart va uniquement à la Royal Navy, sans compter l'armée, hein, l'armée de terre. Et en plus, c'est 47% de l'effort de guerre, la Royal Navy. Donc l'effort de guerre, c'est les millions et les millions que les Anglais donnent aux Autrichiens, aux Russes, aux Prussiens, etc. Le Royaume-Uni est au bord de la faillite. Et d'ailleurs, il y aura de très grosses difficultés sociales, entre autres, dans les années après l'Empire. Et on pourrait même dire que la France se porte financièrement mieux après la chute de l'Empire que la Grande-Bretagne, qui a gagné pourtant. Il y a des bons commandants. Mais n'oubliez quand même pas que les officiers achètent leur grade. Donc ce n'est pas au mérite comme en France. Tout simplement, il faut être fortuné. Donc quelqu'un achète un grade de sous-lieutenant. Si sa famille a assez d'argent, après il va revendre son grade de sous-lieutenant. Il va ajouter, il va acheter un grade de lieutenant. Et c'est comme ça qu'on progresse dans l'armée britannique. C'est étonnant qu'avec un système pareil, ils aient pu quand même avoir quelques généraux compétents. Alors la Prusse, c'est la puissance continentale qui monte, elle est fortement motivée, il y a un nationalisme, mais c'est vraiment la victoire de la réaction. Et il faut voir Gneisenau, dont on va parler, chef d'état-major de Blücher, est quelqu'un de très compétent, mais il n'a pas intérêt à montrer sa tête à la cour, parce qu'on le considère comme quelqu'un d'extrême-gauche, tout simplement parce qu'il a des idées un peu libérales, et qu'il trouve que ce n'est pas nécessairement la noblesse qui doit décider de tout. Donc il est très mal vu. La Prusse arrive sur le Rhin. La Prusse, évidemment, c'est passé Berlin. Eh bien, avec le traité de Vienne, elle arrive, elle a des possessions sur le Rhin. Il y a des unités très disparates. Il y a un très grand manque de confiance, parce qu'il y a des Saxons, je vais y revenir, il y a des Rhénans. Ces Rhénans, pendant 20 ans, ils ont été les alliés de Napoléon. Il y a beaucoup d'anciens combattants de l'Empire. D'ailleurs, maintenant encore, dans beaucoup de villages de Rhénanie, il y a des monuments aux anciens combattants de Napoléon. Donc, les Prussiens, ils ne comptent pas trop sur eux. Le commandement est de qualité. Alors, notre petit pays, la principauté souveraine des Provinces Unies, vous ne connaissez peut-être pas directement, mais le 16 mars, ça devient le Royaume des Pays-Bas. Parce que Guillaume, il n'est pas bête. Tout le monde est en train de se chamailler à Vienne. Il dit, il y a normalement un roi est nommé par un empereur, sinon il ne devient pas roi. Eh bien, il va s'autoproclamer roi. Et puis finalement, ça arrange bien tout le monde, ça arrange les Anglais, et le congrès de Vienne dit, c'est bon, tu peux devenir roi. Et c'est un très beau coup de Guillaume. Notez quand même, ça j'ai été très étonné en apprenant ça, dans les traités officiels en français, ça s'appelle le royaume des Belgiques. Très bizarre. Alors, le but, évidemment, c'est de réunir les provinces du Nord et du Sud. C'est pas évident. C'est ce qu'on a appelé l'amalgame. L'armée, elle est composée de jeunes sans expérience, issus de la milice ou des volontaires, et des anciens de l'Empire, les meilleurs soldats. du royaume des Pays-Bas, ce sont des anciens de Napoléon. Il y a des unités belges, des unités néerlandaises. Alors, il y a une différence diamétralement opposée entre les objectifs du Royaume-Uni et de la Prusse. Le Royaume-Uni veut liquider Napoléon une fois pour toutes, veut éliminer la menace révolutionnaire, veut remettre Louis XVIII sur le trône, et pour les Anglais, la France est une alliée. C'est pas comme ça pour les Prussiens. La Prusse veut faire la guerre à la France, rivalité sur le continent. Elle veut éliminer un concurrent, donc, et c'est la France qui est l'ennemi. Grosse différence, donc, entre les deux. Brièvement, pour un peu expliquer comment ça fonctionne la guerre napoléonienne, la guerre telle que conçue par Napoléon, c'est la manœuvre sur position centrale, c'est-à-dire Napoléon a inventé les corps d'armée. Ce sont des petites armées miniatures avec infanterie, cavalerie et artillerie qui peuvent fonctionner individuellement au moins pendant un certain temps, peuvent résister pendant, disons, un jour et toutes les autres corps d'armée sont à un jour de marche. Ça veut dire que si celui-là rencontre un ennemi supérieur, il résiste pendant un jour, et pendant ce temps-là, ceux-là marchent pour l'aider, ceux-là et ceux-là. Ils vont se retrouver avec trois fois plus de troupes, et donc vont pouvoir détruire l'ennemi. Alors, et un autre principe, c'est la manœuvre sur les derrières, maintenant on dirait les arrières. Donc, Napoléon veut fixer l'ennemi, pendant ce temps-là, il va repérer ses lignes de communication, va essayer de déborder, et ensuite, ayant débordé, il va essayer de percer. Ça, c'est l'autre grand principe de la guerre napoléonienne. Alors, la réponse prussienne, les Prussiens, en fait, c'est un grand hommage qu'ils rendent à Napoléon. Ils se disent, il est impossible de réunir toutes les qualités de Napoléon en un seul homme. Donc, il faut une équipe. Et chacun, il y aura un homme qui est compétent dans ce domaine-là, un dans ce domaine-là, un dans ce domaine-là. Et cette équipe, c'est tout simplement la création de l'état-major moderne. C'est les Prussiens qui ont dit, et donc c'est une idée qui vient de Scharnhorst, qui a été développée par Eisenhower, ensuite elle est passée à Clausewitz, et puis finalement Moltke, là on est en 1870, dit, il y a des commandants en chef qui n'ont pas besoin de conseillers. Là ils visent Napoléon. Ce sont des étoiles qui n'apparaissent qu'une fois par siècle. C'est un beau compliment quand même. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent se passer de conseils, donc ceux-ci peuvent venir d'un conseil que l'expérience rend capable de donner un avis correct. Il faut une équipe pour avoir les mêmes compétences que Napoléon en un seul homme. Voilà la situation générale. Et vous voyez donc au nord, Wellington, Blücher, les Russes, Barclay de Tolly, Schwarzenberg, ici Boubna, qui d'abord a dû combattre Murat, et alors les Espagnols, mais bon, ça ne représente pas grand-chose. Mais Napoléon, quand même, doit disperser ses forces, entre autres ici, pour mater l'insurrection en Vendée, et ce sont quand même c'est près de 20 000 hommes qui vont lui manquer à Waterloo, parce que si Napoléon avait disposé de 20 000 hommes de plus, il aurait pu faire pencher la balance. D'autant plus, quand on dit Napoléon a attaqué, il faut quand même savoir qu'il est prévu, les Alliés ont prévu à Vienne, que le 1er juillet, plus de 700 000 hommes vont envahir la France. Donc ce n'est pas Napoléon qui attaque, il est obligé par la situation, parce que s'il attend, il sait que ces 700 000 hommes vont se réunir et vont détruire son armée de 100 000 hommes, il doit prendre les devants en essayant de battre chacun individuellement. L'armée française, c'est ceci, vous voyez, il y a différentes armées, et la plus importante, c'est bien sûr l'armée du Nord de Napoléon. Napoléon espère, il y a également 200 000 hommes de troupes auxiliaires, et il espère, en activant la conscription, quand même d'arriver à 360 000 hommes de plus au 1er octobre. Mais ça, c'est uniquement s'il gagne le premier rang. Les Alliés, voilà les armées, c'est sur papier ce qu'on a vu tout à l'heure sur carte. Alors, passons en revue un peu quelques uniformes, comme ça vous verrez. Enfin, les spécialistes n'ont pas besoin de ça, mais quelques beaux dessins. Donc, la garde impériale, il y a des grenadiers, les chasseurs, c'est l'élite. Mais il y a également la jeune garde, voltigeurs, tirailleurs, il y a des marins, la garde. Et évidemment, la cavalerie, chasseurs à cheval, chevaux légers, lanciers rouges, dont un escadron de Polonais. Ce sont ceux qui l'ont accompagné à l'île d'Elbe. L'infanterie de ligne, voilà l'uniforme, infanterie légère aussi. Les chasseurs à cheval, les hussards, voilà en reconstitution ce que ça donne, chasseurs à cheval et hussards, cavalerie de ligne, dragons, chevaux légers, lanciers, d'autres images, la cavalerie lourde, les cuirassiers. Vous voyez, c'est des photos qui ont été prises à Borodino, donc en Russie, pour le bicentenaire. Les carabiniers, avec une magnifique cuirasse dorée, en cuir, évidemment. Et l'artillerie. L'armée britannique, qui a également une garde, donc c'est aussi l'élite. L'élite, principalement, quand même, c'est la noblesse. L'infanterie normale. Alors voilà une belle photo d'un carré, nous allons voir tout à l'heure, les carrés britanniques. C'est donc un mur de baïonnettes et bon, un cavalier, il n'a pas beaucoup de chance de percer cela. L'infanterie, évidemment, n'oublions pas, je dis bien britannique et pas anglais, dans l'armée britannique, il y a vraiment une minorité d'anglais. Ils préfèrent faire le sale boulot par les Gallois et les Écossais. Hein. Alors surtout, il y a une élite, c'est la King's German Legion, la légion allemande du roi. Ce sont des Hanovriens. D'ailleurs, cet après-midi, nous avons assisté à l'inauguration de la restauration du monument Brunswickois et du monument Hanovrien sur le champ de bataille de Waterloo. Ce sont des gens qui ont accompagné Wellington pendant toute la guerre de la péninsule et donc ce sont de très bons soldats. Très bizarre, Wellington, quand il a appris qu'il était nommé pour combattre Napoléon et qui est envoyé en Belgique, enfin lui il était à Vienne, la première chose qu'il demande, il dit « je veux mes Portugais ». Parce qu'en plus de la King James Legion, pour lui l'élite c'était les caçadours portugais et il a voulu. Mais finalement ça n'a pas pu se faire. Donc quand même c'est un hommage également à ces soldats portugais que Wellington les voulait ici en Belgique. Alors la cavalerie, les Horse Guards, très particulier, pour dire à quel point le Royaume-Uni est à une crise à ce moment-là, c'est que pendant les guerres de la péninsule, qui ont quand même duré 7 ans, on n'a jamais estimé nécessaire d'envoyer cette élite de l'élite, ou à peine, en Espagne et au Portugal. Donc ce n'était pas nécessaire. Mais ici, donc, ces gens-là n'avaient plus combattu depuis 1794, campagne de Flandre pendant la Révolution. Donc c'est critique, hein. Ils ne savent pas disposer des troupes qui sont au Canada. Donc on prend vraiment ceux qui montent la garde au Palais Royal. D'ailleurs, de nos jours, ils montent encore la garde. Hein. Ce n'est plus les mêmes, enfin bon. Il y a les Royal Dragoons, et alors les Royal North British Dragoons, les Scots Grays, que nous verrons tout à l'heure. Alors, la KGL a également des hussards. Les dragons légers. En fait, les dragons légers, c'est des hussards ou des chasseurs à cheval. Hein. C'est le terme qui change. Et alors, également, je fais particulier, dans l'artillerie, il y a un corps, ce qu'on appelle en français des fuséiens, donc des troupes qui tirent des fusées. Ces fusées ont été très efficaces parce que ça a permis de raser Copenhague en 1808. Mais Wellington n'en veut pas. Mais on lui impose. Et il va dire c'est juste bon pour effrayer les chevaux. Et c'est pas toujours efficace, mais par contre, ça a quand même donné une sacrée trouille à certains Français. Alors l'armée prussienne, voilà, uniforme bleu foncé, l'armée prussienne. Les chasseurs, eux, sont en vert, comme dans toutes les armées. Infanterie prussienne en reconstitution. Toujours l'artillerie. Alors il y a aussi la Landwehr. La Landwehr, donc c'est la première ou la deuxième réserve. Ce sont des gens souvent mal équipés, comme vous voyez là. Très important en 1813, et on va la réactiver en 1815, et ils vont relativement bien combattre. Alors, je dis équipés sommairement, mais une chose qui permet toujours de reconnaître la Landwehr, c'est qu'il y a une petite croix de Malte, croix pâtée ou la croix de fer, quoi, sur leur casquette, képi et shako. Et d'ailleurs, la Landwehr va garder ça sur leur couvre-chef jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, Landwehr, c'est également de la cavalerie. Bon, il y a aussi des hussards, des dragons. Et alors, le corps franc de Lützow a joué un rôle très important et presque mythique pendant la guerre 1813-1814, mais après, c'est principalement des étudiants, des universitaires, des intellectuels, des artistes, et ils vont être intégrés dans l'armée. Dans l'infanterie, il va devenir un numéro, le régiment 25 et la cavalerie numéro 6, et Lützow lui-même, qui a créé ça, il va être fait prisonnier à Ligny. Alors, le royaume des Pays-Bas, voilà en reconstitution. Donc ça, c'est un régiment belge. Et vous voyez, Pour les artificiers faciles, il y a une petite cocarde orange, évidemment. Les officiers ont une ceinture orange. Il y a également des chasseurs, que vous voyez là. Il y a également des troupes de milices qui vont relativement bien combattre. Et il y a la cavalerie. Alors, il y a tous les régiments, c'est ou hollandais ou belge. Donc ici, il y a 1, 2, 3 des carabiniers, c'est la cavalerie lourde. Le deuxième, ce sont les belges. Chez les dragons légers, le cinquième, ce sont les belges. Chez les hussards, le huitième, ce sont des belges. Donc l'amalgame ne s'est absolument pas encore fait à ce moment-là. Voilà l'artillerie hollandaise, hollando-belge. Et également, il y a des troupes du duché de Nassau, avec des troupes nassauviennes qui sont dans l'armée des Pays-Bas, et des troupes nassauviennes qui sont du duché de Nassau, qui combattent en dehors. Ça, c'est compliqué. L'armée brunswickoise, en noir. Et d'ailleurs, les gens qui sont là, on les a vus cet après-midi. Et ceux-ci aussi, donc, ils sont en noir ou en gris. Et il y a également des hussards, également en noir. En noir parce qu'ils portent le deuil du premier duc de Brunswick qui a été mortellement blessé à Auerstedt en 1806. Et donc, suite à ça, ils ont porté l'uniforme noir. Mais voilà, on arrive, non pas encore au combat, mais on arrive aux premières victimes, au mois de mai. Alors, le 6 mai, à Liège, il y a le soulèvement des Saxons. Pourquoi ? Parce que la Saxe avait été un allié fidèle de Napoléon, et puis finalement, il s'était retourné contre Napoléon, et le roi de Saxe, qui avait été emprisonné par les alliés, avait réussi avec beaucoup de difficultés à maintenir son trône et à faire que la Saxe existe encore, parce que la Prusse voulait tout simplement l'annexer. Alors, ils ont arrivé à un compromis. La Saxe va être amputée de la moitié de son territoire, mais les gens de ces territoires devaient d'office servir dans l'armée prussienne. Mais ils n'avaient absolument pas envie. Donc, ils se sont soulevés. Ils ont fait une petite émeute, ils ont cassé les carreaux de la maison où Blücher était, et Blücher, il s'est enfui par la porte arrière. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont décidé qu'ils seraient décimés, donc selon comme le terme romain, on s'est exécuté un soldat sur 10, et puis finalement, oui, il faut aussi quand même dire que dans ce soulèvement, ils ont crié « Vive Napoléon !» parce qu'ils avaient combattu pour Napoléon, ils étaient fidèles à Napoléon, et c'était le retournement d'alliance qui avait fait que, et donc, évidemment, Blücher n'a pas pardonné ça, et il y en a 6, dont j'ai les noms de 4 ici, qui ont été exécutés à Bierzet et à Loncin. Donc ils étaient casernés. C'est par miracle que j'ai trouvé ce tableau dans un musée en Allemagne, je ne sais pas exactement où. Et donc ici vous avez l'exécution, et là vous avez leur tombe, avec l'inscription en dessous de ce tableau, que je n'avais jamais vu ailleurs, avec la mention des noms. Et c'est un des camarades qui a fait ce tableau en mentionnant leur nom. Alors également un autre mort. Parce que c'est pas que pendant les combats qu'on meurt, c'est une tombe ici que j'ai, c'est près de, à Auru, près de Soigny, que j'ai retrouvée, qui avait quasiment totalement disparu, enfin personne ne la connaissait, je l'ai restaurée et j'ai repeint la grille. C'est Karl Boris von Uslar, qui est un capitaine hanovrien, qui, pendant des exercices au mois de mai, a traversé une rivière, il a attrapé une pneumonie et il en est décédé. Et c'est ses camarades qui ont érigé ce monument qui existe encore donc, deux siècles plus tard. Il y a d'autres combats, évidemment, je parlais de la Vendée à Saint-Gilles-sur-Vie, qui est maintenant Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le général napoléonien Grobon va être tué ici en observant les Vendéens juste là dans la tour de l'église. Le lendemain, combat des Maths, là c'est le Louis de la Roche-Aclin, qui est le frère d'un des grands chefs des soulèvements vendéens de 1893-94, qui va être tué au combat, et ça va être la déroute des troupes vendéennes. Bon, la campagne, voilà les étapes que nous allons franchir. Les objectifs de Napoléon, c'est battre Wellington et Blücher séparément, on l'a vu, puis prendre Bruxelles et atteindre Anvers. N'oublions pas qu'on a toujours dit Anvers est un pistolet braqué sur le cœur de l'Angleterre. Il veut, par cette victoire, renforcer son pouvoir interne. Il veut provoquer le soulèvement de la Belgique et du pays rhénan. Éventuellement de la Saxe. On a vu que ce n'est pas tout à fait imaginaire. Pour la Belgique, ce n'est pas imaginaire, mais c'est venu 15 ans plus tard. Le pays rhénan, je vous ai dit pourquoi également, et évidemment de la Pologne, qui avait été découpé en trois. Il veut gagner du temps pour une mobilisation générale. Il espère, d'ici le mois d'octobre, avoir 300 000 hommes de plus. Il veut surtout, avant tout, il faut retenir ça, provoquer la chute du gouvernement conservateur britannique. Parce que sans conservateurs, plus de financement des coalitions, plus de coalitions, plus d'ennemis. Donc, ensuite, après avoir vaincu Wellington Blücher, il veut rejoindre Rapp sur le Haut-Rhin et à ce moment-là affronter les Autrichiens et puis les Russes. Mais entre-temps, si effectivement les Anglais ne financent, les Britanniques ne financent plus, eh bien, normalement, il n'y aura plus d'armée autrichienne et il n'y aura plus d'armée russe parce qu'ils ne savent plus les payer. Et alors, il vise une paix globale ou séparée avec certains des alliés. N'oublions pas que son beau-père, c'est quand même l'empereur d'Autriche. Alors, le terrain, étudions le terrain. N'oublions, très important, la frontière, elle était ici. Elle n'est pas la frontière actuelle, elle est là. Mais toute cette partie-ci sera enlevée à la France après 1815. Et donc, Napoléon va pouvoir progresser beaucoup plus que jusqu'à la frontière actuelle. Donc, Philippeville, Marienbourg, tout ça, c'était français à l'époque. Donc, la frontière est là. L'objectif, Bruxelles. Mais Wellington est persuadé que Napoléon va venir par Mons. Et il va falloir beaucoup et longtemps avant qu'il se rende compte que ce n'est pas le cas. Ensuite, il croit et il doit défendre Gand. Gand est la capitale du royaume de France. Donc ça va faire que Wellington va toujours mettre énormément de troupes de ce côté-là, donc à l'ouest. Normalement, sa ligne de repli, c'est Ostende, mais il peut tout aussi bien se replier sur Anvers, et selon moi, il serait plus logique, en cas de défaite britannique, de se replier sur Anvers plutôt que sur Ostende. Enfin bon. Alors, comme obstacle, il y a la Sambre et la Meuse, ici, et la Dyle, qui va quand même jouer un rôle dans la bataille de Wavre. Alors, la bataille Gilly, d'abord, près de Charleroi. Ensuite, deux batailles, Ligny et Quatre-Bras. Ensuite, Waterloo, en même temps, Wavre, et le deux jours plus tard, la bataille de Namur. Alors, la disposition des troupes est ainsi. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de troupes fortes à l'ouest, tandis que les Français arrivent ainsi. Le 12 juin, Napoléon loge à Laon. Le 13, à Avesnes-sur-Helpe, toujours en France. Le 14, il progresse à Estrut, et alors on a ériger un petit monument où un gamin aurait dit à Napoléon qui faisait boire son cheval, « Monsieur, n'allez pas par là. » C'est une légende, c'est une belle légende, mais il n'a pas suivi le conseil du gamin. Alors, il y a également à Sauldre-sur-Sambre un monument à l'endroit où le premier corps de d'Erlon a bivouaqué. Et Napoléon loge à Beaumont, dans cette maison. À Beaumont, Mortier loge dans cette maison, et au matin du 15, quand on va rentrer en Belgique, il dit « Salut, merci ». Il vend ses chevaux à Ney, qui est arrivé dans la nuit, mais qui n'a pas de chevaux, il n'a pas d'état-major, il n'a rien. Mortier est à la tête de la garde. La garde, c'est quand même l'élite de l'armée, l'élite du régime. Lui, il rentre à la maison. Sciatique ou sciatique diplomatique. Alors, plan général de la progression française. Et vous voyez tout de suite ici le goulot du pont de Charleroi. Ici, il y a cette partie-ci de l'armée va progresser par là, cette partie par là, mais le gros va devoir passer sur le pont de Charleroi. Et ça va être un goulot qui va fortement retarder la progression de l'armée française. Autre tuile, on est le matin du 15, l'armée française vient de franchir la frontière, le général de Bourbon, qui est un royaliste, il passe à l'ennemi avec tout son état-major. Il y a de nos jours encore l'arbre sous lequel il s'était réuni avec son état-major et qu'on appelle maintenant l'arbre de la trahison. À Florène, donc. Alors, l'armée française rentre, parce qu'il ne faut pas oublier, Charleroi, à l'époque, c'est encore une ville entourée de murailles et de fortifications. Cette porte a été démolie et reconstruite à l'avant d'une maison, elle existe encore, mais donc c'est la porte sous laquelle l'armée napoléonienne est passée. Et il y a devant la gare de Charleroi, ce tambour, monument, donc comme symbole de toutes les armées françaises qui sont montées en Belgique pour défendre la liberté de 1792 à 1940. Alors, premier combat de Gilly, combat d'avant-garde, mais Napoléon est présent, il y a quelques troupes prussiennes, donc en bleu les Français, en rouge les Prussiens. Le ring Charleroi, de nos jours, il passe ici, plus ou moins comme ça. Et ça doit aller vite, et donc Napoléon va engager les escadrons de service, ceux qui le protègent personnellement, sous le commandement général de Thor. Le général de Thor, ici, à cet endroit-là, tout est presque construit, mais il va être mortellement blessé, il va être évacué à Charleroi, et il va mourir le lendemain dans cette maison, boulevard Thiroux, à Charleroi, et il y a d'ailleurs une plaque. Napoléon va loger au château Puissant, qui a été détruit depuis lors. Wellington, lui, vous connaissez l'hôtel Bellevue, c'est le musée Bellevue de nos jours, c'est là qu'il y avait des réunions d'état-major britanniques, et là, il reçoit le premier message là, que l'armée française avance sur Charleroi, le 15 à 15h. Que fait Wellington? Rien. Il n'en tient pas compte. Alors, les Anglais, pendant ce temps-là, l'armée joue au cricket, pas nécessairement à cet endroit-là dans le bois de la Cambre, mais symboliquement, on a mis cette petite stèle pour commémorer les soldats britanniques qui, trois jours avant Waterloo, ont joué là au cricket. Évidemment, le 15 juin, c'est le grand jour du bal de la duchesse de Richmond. Vous avez sans doute vu le film Waterloo de Bondarchuk, et ça a été toujours représenté comme ceci, en fait. C'est dans le hangar d'un fabricant de carrosses. C'était un peu moins bien décoré. Enfin, vous voyez ce qu'un auteur, un peintre romantique britannique peut en faire. Mais c'est vrai que Wellington ne voulait pas que ses officiers ne soient pas présents parce que ça aurait provoqué la panique dans la population britannique à Bruxelles. Il faut dire qu'il y avait énormément de Britanniques qui vivaient à Bruxelles parce qu'il y avait une grande communauté et que la vie était beaucoup moins chère. Donc les gens bien mais moins fortunés venaient à Bruxelles et ils vivaient entre eux, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a ce bal-là, il ne voulait pas provoquer. Mais par contre, Wellington lui-même avait écrit à une de ses amies, prenez un minimum de bagages et partez pour Anvers. Donc il n'était pas très 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 confiant lui-même. Alors de nos jours, c'est à l'arrière ici, rue du Marais, la salle de bal était ici à l'arrière de la rue de la Blanchisserie. Là derrière, vous avez la rue des Cendres et le City 2. Donc pour dire où ça a eu lieu. Alors, le 16 juin à 13h, Wellington et Blücher se rencontrent au moulin de Bussy, qui n'existe plus maintenant. L'image est fantaisiste, mais le tableau est beau. Et Wellington dit, je viendrai à votre secours pour autant que je ne sois pas attaqué moi-même. Blücher, Ignace, non, attends, je viendrai à votre secours. La condition, ils oublient. Et ils vont en vouloir à Wellington de ne pas être venu. Mais Wellington, là, je reconnais, il a été honnête, il a été attaqué, donc il n'a pas pu venir. Première grande bataille, j'ai dit, c'était une affaire, c'est la bataille des quatre bras. Vous avez donc d'une part Ney, qui commande l'aile gauche de l'armée française, contre Wellington. Au début de la bataille, il est en large supériorité numérique, 15 000 contre 7 000. Mais à la fin de la bataille, vous voyez 21 000 contre 35 000. Donc ça veut dire que la bataille, c'est très simple. Au début, les Français vont avancer, ils vont repousser les Hollando-Belges, parce que finalement il n'y a qu'eux. Et pourquoi il n'y a-t-il qu'eux? C'est parce que Wellington avait dit aux Hollando-Belges, retirez-vous sur Nivelles. Et le général Perponcher et Constant Rebec avaient dit, non, on ne peut pas faire ça, on doit tenir les quatre bras. Donc ils ont désobéi à Wellington, et c'est ça qui a décidé, selon moi, de l'issue de la bataille, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, les Anglais disent c'est une victoire anglaise, les Prussiens disent c'est une victoire prussienne, ben on peut dire quand même, les Hollandais, que sans cette décision-là, Ney prenait les quatre bras, il pouvait envoyer sans problème la moitié de ses troupes sur Ligny, les Prussiens étaient encerclés, les Prussiens étaient détruits, et on n'en parlait plus, Napoléon détruisait Wellington à Waterloo, sans problème, puisque les Prussiens ne viendraient pas, et l'histoire est réécrite. Mais au fur et à mesure, vous voyez, de la journée, il y a des troupes qui s'amènent et les Français vont être repoussés. Donc ça commence vers 14h, parce que n'oublions pas, à 13h, il y a la réunion de Wellington et Blücher à Ligny. Donc En rouge, c'est les... Donc ici, vous avez deux... les divisions françaises. Vous avez Bachelu, Foix, Piret, la cavalerie. En face, vous avez la brigade, première brigade de Belland, vous avez la brigade de Saxe-Weimar et vous avez la cavalerie de Van Merlen. Et puis, donc, les Français vont prendre la ferme de Génioncourt. Ensuite, les Français continuent à progresser, mais au fur et à mesure, les renforts britanniques, surtout les réserves britanniques, arrivent et vont repousser les Français. Voilà la ferme Gémioncourt, et là-bas, au bout, vous avez les quatre bras, le carrefour des quatre bras que vous voyez ici. Ney n'a pas beaucoup de troupes, donc il va devoir engager ses cuirassiers de Kellermann, qui ne sont pas très nombreux, mais ils ne disposent pas d'autres troupes, et finalement, les troupes britanniques sont trop peu entamées, et ça va être un échec. Il y a quelques cavaliers qui vont arriver jusqu'à la ferme des quatre bras. Ils vont même réussir à prendre un drapeau d'un régiment britannique, mais ça ne va pas aller plus loin. Alors, aux quatre bras, vous avez ici le monument anglo-hanovrien et le monument de la cavalerie néerlandaise, et également le très beau monument dont on a inauguré la restauration cet après-midi, au duc de Brunswick, le prince noir, qui a été tué plus ou moins à cet endroit-là, et ça c'est la statue du duc de Brunswick dans la ville de Brunswick, devant le palais. Alors il y a également aux quatre bras un monument aux Belges et une petite stèle qui a été inaugurée à la cavalerie belge. Et alors le plus grand monument des quatre bras, lui, il se trouve près du palais royal de Soestdijk. C'est le plus grand monument commémoratif de la bataille des quatre bras. Alors les pertes morts, blessés, disparus, pour les Français 20%, plus ou moins équivalent pour les Anglo-alliés, mais ça ne représente que 13%. Donc, finalement, c'est un match nul parce qu'à la fin de la bataille, les Français se sont trouvés exactement au même endroit qu'ils étaient au début de la bataille. Donc, la situation générale, elle est là. Et alors, ici, très important, je vous ai dit que si Ney prenait le carrefour des quatre bras, sans problème, il y a un corps, le premier corps en l'occurrence, de Derlon, qui aurait pu progresser par là et prendre les Prussiens à revers. Ce corps va être envoyé, mais il va se balader entre les deux champs de bataille et finalement il ne va servir ni à Ligny, ni aux quatre bras. Et donc, s'il avait été engagé d'un côté ou de l'autre, ça aurait fait pencher la balance. Mais ici, il va être tout à fait inutile, il ne va servir à rien. Et Ligny sera une victoire française, mais pas décisive, et les quatre bras, ce seront un match nul. Alors, la bataille de Ligny... Donc, vous voyez, les Français sont en infériorité numérique. Quand je le dis, ce sont des pièces d'artillerie, parce que je ne peux pas dire canon, parce qu'il y a des obusiers. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, autant de pièces d'artillerie, et pourtant les Français vont remporter une grande victoire en situation d'infériorité numérique. Parce que là, Napoléon va très bien mener sa situation. Donc, vous avez le troisième corps de Vandamme, à cet endroit-là. Vous avez le quatrième corps de Gérard, qui se trouve ici. La réserve, évidemment, c'est la garde impériale. Et vous avez le premier corps des cavaleries de Pajol, le deuxième corps d'Excelmans et le quatrième corps de Millau, donc de la cavalerie. En face, vous avez le premier corps d'armée de Zieten, vous avez le deuxième de Pirsch et le troisième de Tillmann. Alors, procédons d'ouest en est. Vandamme va envoyer, il a reçu en renfort une division d'infanterie de Girard, et il va l'envoyer, il va vraiment l'épuiser, il va, je ne dis pas faire massacrer tous ses hommes, mais il va l'utiliser et il va l'user jusqu'à la fin, et ça va détruire beaucoup de troupes prussiennes, mais finalement ce sera une intervention de la jeune garde sur les arrières ici qui va provoquer la décision sur cette partie du champ de bataille. Donc, combat l'extrême ouest français, c'est le hameau de Saint-Amand, et en dessous vous avez le hameau de La Haye. Girard, donc le commandant de la division dont je vous parlais, va être mortellement blessé et il va mourir à la fin du mois dans sa maison à Paris après avoir été évacué. Il y a une plaque sur la ferme de La Haye plaque de l'Association pour la conservation des monuments napoléoniens, dont je suis le vice-président et dont le président est dans la salle. Alors, Saint-Amand est également fort disputé, vous voyez ici, et ce qui est particulier, c'est que, selon moi, ça fait partie des erreurs de Blücher. Il y a une petite rivière qui est la Ligne, et ce qui est frappant, c'est qu'on apprend toujours à l'armée qu'il ne faut jamais combattre dos à un obstacle, parce que c'est très dangereux. Et bien, ce que Blücher va faire, il va occuper tous des villages qui sont juste du côté français, sur la rive française de la Ligne. Donc, c'est déjà contraire à tous les principes de la guerre. Saint-Amand est un de ces villages qui sera presque entièrement détruit par les combats. Alors, ici, vous avez le corps de d'Erlon qui va arriver, mais qui, sur les arrières des Prussiens, mais qui va être rappelé juste au moment où il va intervenir. Donc, il ne va pas intervenir, et ça va même provoquer à un certain moment, parce que les Français ne savent pas qui va arriver là, ça peut aussi bien être des Anglais. Donc, ça va retarder l'attaque décisive d'une bonne heure, l'attaque de la garde, parce que Napoléon ne sait pas qui arrive, et puis finalement, ces troupes vont disparaître, donc elles ne vont pas intervenir. Ça, c'est une des autres causes de la défaite napoléonienne dans cette campagne. Alors, au centre, Gérard va attaquer, plusieurs attaques répétées, et puis finalement, il va réussir à percer. Voilà, ici, les hauteurs qui dominent Ligny. Nous sommes du côté des batteries, des positions françaises. Ligny est devant nous, Saint-Amand est là, à l'ouest, et son bref, occupé par les Prussiens, est à l'est. Ligny, de dur combat à la ferme d'en haut. Cette ferme est relativement bien préservée. Alors, à Ligny, il y a plusieurs monuments, dont celui-ci, et ce beau canon, qui est en fait, il fait partie des collections du musée de la porte de Halle. Et c'est un canon français, mais qui n'a pas servi, qui venait de la citadelle d'Anvers. Alors, Ligny, c'est aussi, il y a un château qui était déjà plus ou moins en ruine, et qui sera très durement touché pendant les combats. De nos jours, il n'en reste strictement rien. Il y a un panneau qui indique son emplacement, et il est plus ou moins 300 mètres au mauvais endroit. Il y a également la ferme d'en bas, qui est au nord du village de Ligny, et qui, la prise de cette ferme va signifier la victoire de Napoléon. Napoléon, lui, était à Fleurus, il observait le champ de bataille de cette tour, de ce moulin, donc, il a le fameux monument des trois victoires françaises. Après la bataille, il va loger dans le château de la paix, qui est maintenant l'administration communale de Fleurus. Alors, à l'est, très bizarre, les Prussiens vont être relativement amorphes. Le troisième corps ne va pas beaucoup intervenir, et puis il va se replier. À l'est, il y a le château de Sombreffe et le presbytère, où Blücher a passé la nuit avant la bataille. Et à l'est, donc, les Français vont relativement facilement progresser. Ayant percé les Prussiens, la ligne prussienne là et là, eh bien, c'est la débandade du côté prussien, mais comme on ne ferme pas la porte, ils vont pouvoir s'échapper. À la fin de la bataille, Blücher va intervenir lui-même, et il va participer. Il ne faut pas oublier, Blücher, il a 72 ans. C'est un vieux hussard, il n'y a pas de problème, et à un certain moment, quand la situation est critique, il se met à la tête d'un escadron et il charge. Évidemment, son cheval est tué et il reste coincé sous son cheval. Mais les Français, c'est déjà presque la nuit, les cavaliers français passent à côté, ne le voient pas. Vous imaginez que s'il avait été capturé, l'issue de la bataille aurait été différente. Alors, les pertes les chiffres sont assez variables. Donc, les Français, 9 à 12 000 hommes, et les Prussiens, de 20 à 25 000 hommes. Mais il y a 8 à 10 000 déserteurs. Pourquoi ces déserteurs? Ce sont des troupes rhénanes. Je vous ai dit que les Rhénans, les Prussiens ne leur faisaient pas confiance. Eh bien, en plus, ils ne sont pas tellement loin de chez eux, et il y en a presque 10 000 qui désertent. Alors, la situation, c'est le tableau, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et la poursuite. Alors, que va-t-il se passer après la bataille? D'abord, il ne se passe rien. Une inertie incroyable de Napoléon. À midi, il va faire une réunion d'état-major ici, au hameau des Trois Burettes. Et ça commence à 11h. À midi, il envoie Grouchy à la poursuite des Prussiens. Les Prussiens ont commencé à fuir vers 10h. Donc ça fait plus de 12h que les Prussiens sont partis. Donc le pauvre Grouchy, il doit chercher où sont les Prussiens. Mais il ne sait pas dans quelle direction il doit chercher. Selon toute logique, et avec l'optimisme de Napoléon lui dit, cherchez en direction de Namur. Namur, il rentre chez eux. Napoléon est persuadé qu'il a défait les Prussiens et que les Prussiens rentrent chez eux. Donc il envoie Grouchy avec 33 000 hommes, c'est quand même énorme, à la recherche des Prussiens. Donc il va dans cette direction-là, jusqu'au carrefour du point du jour. Et là, il se dit, où sont-ils passés? Deux possibilités. Ou bien ils sont par là, en direction de Namur. Namur, c'est les lignes de repli logiques et normales des Prussiens. Pour rentrer chez eux, sur le Rhin, c'est Namur. Mais il se peut aussi qu'ils soient partis vers Gembloux. Et une fois qu'ils arrivent à Gembloux, donc c'est pour dire que la tâche de Grouchy, elle est compliquée, parce qu'ils vont envoyer les hommes par là, ils vont rien trouver, ils vont envoyer par là. Et puis ils arrivent à Gembloux. Les Prussiens sont déjà passés. Et une fois que les Prussiens sont passés à Gembloux, où sont-ils allés? Sont-ils partis en direction de Havre ou en direction de Tirlemont? Donc, finalement, Grouchy, en ayant 12 à 14 heures de retard, il ne sait pas dans quelle direction il doit chercher. Et c'est tout cela est dû à l'inertie de Napoléon qui ne lui donne pas d'ordre, il ne lui donne pas d'ordre avant le midi du 17 juin, donc le lendemain de la bataille de Ligny. Alors le repli prussien, contrairement à ce que Napoléon espérait, ce n'est pas vers Namur, mais c'est vers Gembloux et ensuite vers Havre. Et c'est ça qui va aussi faire basculer la bataille, l'issue de la campagne. Donc vous avez ici le hameau des Trois Burettes. Il y a un Colruyt là maintenant. Ça, c'est le seul bâtiment qui existait à l'époque. Et alors là, le carrefour du point du jour, les Français viennent de son bref. Vont-ils chercher direction Gembloux ou direction Namur? Alors, le 17, de l'autre côté, les Anglais étaient aux quatre bras, on a vu hier. La poursuite, les Français vont poursuivre direction Genappe. Genappe, avec des rues très étroites à l'époque comme maintenant. L'église de Genappe n'existait pas, mais c'était une petite place. Donc, il va y avoir même à cet endroit-là un dur combat de cavalerie. Il ne faut pas croire que le 17, on n'a pas combattu, parce qu'ici, au nord de Genappe, il n'y a pas de monument, mais dans l'église de Waterloo, il y a cette plaque qui commémore deux officiers britanniques qui ont été tués à Genappe, le 17. Voilà comment ça a été représenté par un peintre, et vous voyez Napoléon à la tête. C'est peut-être un peu symbolique, mais c'est un beau tableau. Vous voyez l'armée britannique en déroute. Pour avoir le témoignage d'un officier britannique, le capitaine Mercer a appelé ça la chasse au renard, le fox chase. Donc c'est quand même pour dire que les Anglais couraient assez vite. Alors, la bataille de Waterloo, Napoléon, voilà toutes les troupes dont il disposait. En face de lui, Wellington. Vous voyez, il a une légère supériorité numérique en infanterie et il a nettement plus de canons. Déjà, une chose incompréhensible, Wellington va se séparer de 17 000 hommes. Je lui dis que parfois ça dépend de 20 000 hommes, mais Wellington, il va laisser 17 000 hommes à Hao. Toujours parce qu'il est obnubilé par cette idée que les Français vont attaquer direction Gand. Ou bien c'est parce qu'il a reçu des ordres du gouvernement, surtout fait que Louis XVIII ne soit pas capturé par les Français. C'est très possible aussi, mais il est inconcevable que quand on dispose de 72 000 hommes, on en laisse 17 000 hors de portée des combats. On parle souvent de Grouchy qui n'est pas intervenu, mais si Wellington avait été battu, il aurait dû se justifier pourquoi il a laissé ses 17 000 hommes hors de portée de la bataille. Et ces hommes, ils sont ici, du côté de Hall, à Onzorf, il y a même une plaque sur la maison occupée par le prince Frédéric Guillaume d'Orange, donc le deuxième fils du roi de Hollande, qui commandait ces troupes-là. Il avait 18 ans. Alors, l'armée prussienne de Blücher, il a ces corps-là qui vont intervenir, mais j'ai chaque fois mis un petit moins, parce que ce n'est pas la totalité de ces troupes qui vont. Donc, du corps de Zieten, il y en a 4600 sur 20 000, Pirc, à peu près la moitié. Par contre, le corps de Bülow va être utilisé en totalité. Et donc, vous voyez que ça fait quand même déjà pencher nettement la balance en faveur des alliés. Voilà le champ de bataille, la disposition des troupes au début de la bataille. Vous avez le premier corps de Derlon, le deuxième de Rey, le sixième de Mouton, vous avez la garde en arrière, le corps le troisième corps de cavalerie lourde qui est là, c'est Kellerman, oui, et Milhaud qui est la quatrième corde. Le Wellington a trois points d'appui sur, en avant de cette ligne, la ferme de Goumont, la ferme de la Haie-Sainte et la ferme de la Papelotte. Ces troupes, c'est la première division britannique, la deuxième, la troisième, la cinquième, la deuxième division hollando-belge, la troisième division hollando-belge, qui elle aussi est très loin, regardez, et ça c'est, je ne sais pas, mais regardez, c'est vraiment coupé en deux, l'armée française, elle est parfaitement symétrique, tandis que l'armée britannique, elle est vraiment, comme on dit, plic-poc, elle est un peu dans tous les sens, et avec même ici ceux-là qui sont à Merwebren et à Braine-l'Alleud, que Wellington va quand même en fin de bataille rappeler. C'est la 3e division hollando-belge, il y a les Brunswickois, la cavalerie hollando-belge et la cavalerie britannique. Alors, voilà les positions au début. Alors, normalement, j'ai une petite animation. On dit toujours, Napoléon a-t-il commencé en retard parce que le terrain était trop gras et l'artillerie aurait été inefficace. C'était en partie vrai, mais c'était également vrai quand les combats ont déjà commencé, vous voyez que la 4e division du Rut, elle se met encore en place. Donc Napoléon a dû attendre que toutes ses troupes, la division du Rut, elle a passé la nuit près de Genappe. Donc ils ont encore dû faire le matin tout le trajet. La bataille va commencer à 11h35 par une attaque sur la ferme de Goumont, ou Goumont qui se trouve là. Voilà. Alors, la bataille de Goumont, c'est ceci. C'est un grand bois qui est tenu, entre autres par des Nassauviens, et les divisions de la garde britannique sont dans les bâtiments, et il y a également un grand verger. Voilà comment ça se présente de nos jours, et les trois grands arbres que vous voyez là, c'est tout ce qui reste du bois, donc il faut imaginer que derrière ces arbres, il y avait un grand bois, les Français viennent, sur la photo du bas, ils viennent du fond. Alors, à midi, voilà l'évolution. Napoléon met ses canons en batterie ici. Vous voyez, les canons commencent à se mettre en place parce qu'il veut pilonner les troupes alliées. Mais Wellington a fait une très bonne décision. Il a mis la plupart de ses troupes derrière la crête. Ça veut dire que les tirs de la grande batterie ne vont quasiment servir à rien. Donc à 13h, voilà ce qui va passer. Après la préparation d'artillerie, le premier corps de d'Erlon va avancer, va attaquer les lignes britanniques. Pendant ce temps-là, vous voyez que ici, le 6e corps commence à se mettre parce qu'on sait que les Prussiens vont arriver de ce côté-là. Donc c'est déjà une des deux réserves de Napoléon qui va être utilisée. Donc il y a des combats ici, vous voyez la cavalerie qui protégeait les flancs, qui va détruire une unité hanovrienne, et les Français avancent, mais l'attaque sera assez mal menée, et les Britanniques vont pouvoir la repousser. Donc, je vous ai parlé de la préparation d'artillerie, la grande batterie. Ici, elle se trouve, vous voyez là, la crête est encore la même qu'à l'époque, et bien la plupart des troupes étaient derrière. Il y a uniquement les canons britanniques qui étaient visibles. Donc, la grande batterie va tirer 3600 coups en une demi-heure, elle va provoquer 500 pertes, donc morts et blessés, seulement 3,3% des troupes visées. C'est pour dire que c'est totalement inefficace, évidemment. L'attaque du premier corps va se faire sur ce terrain-là, comme ceci. Ici, on progresse un petit peu, la ferme de la Haie-Sainte, et ça, c'est le même coin, mais vu des positions britanniques. Évidemment, en première ligne, et de l'autre côté, donc sur la crête, partie visible, les Anglais avaient mis les troupes de la brigade Bellant, donc Wellington, enfin, on ne sait pas exactement qui a pris la décision, mais les troupes hollando-belges étaient infiniment plus exposées parce qu'elles étaient sur le côté sur le versant français de la crête. Et donc, ils vont subir de lourdes pertes avant qu'un général anglais s'en rende compte et dit « abritez-vous avec les autres ». Et c'est pour ça que le monument belge se trouve à cet endroit-là. Également, le monument au milieu à Picton, qui est un général britannique qui sera tué pendant cette attaque. Alors, à 14h, vous voyez ici toujours les combats au Goumont qui vont absorber d'abord la division du prince Jérôme, frère de Napoléon, ensuite la division Foy, et finalement la division au Bachelu. Les Français sont repoussés par la cavalerie britannique que vous voyez là, et ces cavaliers britanniques vont faire près de 3000 prisonniers. Mais eux-mêmes vont se faire, comme vous voyez ici, vont se faire écharper par la cavalerie française, et l'infanterie française a subi de graves revers, mais la cavalerie britannique ne servira presque plus non plus dans la suite de cette bataille. Donc voilà les premières phases. Donc contre l'infanterie française, les Anglais vont envoyer la contre-attaque de la cavalerie alliée, et il y aura contre ces cavaliers qui vont s'emporter, qui vont aller beaucoup trop loin, il va y avoir une contre-charge française qui va détruire la cavalerie britannique. Les Britanniques vont capturer 3000 hommes, mais une grande partie, un cavalier ne sait pas capturer vraiment un prisonnier, c'est l'infanterie qui doit le faire. Ça va fortement désorganiser, mais sur ces 3000, on peut dire quand même qu'il y a au moins la moitié qui va réussir à rejoindre la ligne française. Maintenant, est-ce qu'ils vont être opérationnels? Souvent, ils ont abandonné leurs armes, leurs sacs, etc. Mais ces 3000 hommes. Les cavaliers britanniques vont également capturer la grande batterie, mais il n'y a personne qui va penser à détruire les canons. On reproche cela à la cavalerie française, ne pas avoir détruit les canons britanniques dans l'attaque que nous allons voir tout à l'heure, mais les Britanniques ont commis exactement la même erreur. Ça, on n'en parle d'habitude pas. Alors, contre-attaque de la cavalerie alliée, contre-charge française, entre autres les chevaux légers lanciers. Alors, avec ici quelques beaux tableaux d'un artiste polonais que j'ai trouvé, et la mort du général Ponsonby, qui est également bien illustrée dans le film de Bondarchuk. Alors, à 15h, la situation est la suivante. Voyons ce qui va se passer. La cavalerie se replie par là, et effectivement, l'infanterie française reprend. Mais, ici, la 3e division du corps de Rey va également essayer d'intervenir. Donc, tout le corps va être finalement monopolisé par les combats pour la ferme d'Hougoumont, qui en soi n'est pas tellement importante. Là, Wellington, vous voyez ici, il commence à rappeler ses troupes qu'il avait laissées à Merwebren et à Braine-l'Alleud. Et alors, là, on approche déjà de la mise en place de la cavalerie française, parce que Ney, et là, c'est aussi un gros reproche qu'on peut faire à Napoléon, il va laisser en grande partie le commandement des opérations à Ney. Il ne va pas vraiment être attentif. On se demande comment c'est possible, et il va laisser Ney agir. Suite à ce que Ney a cru voir un repli britannique, il va envoyer la cavalerie. Parce que normalement, on voit la cavalerie sur l'infanterie qui est en train de se replier parce qu'elle est désorganisée, elle ne sait pas se mettre en carré. Et suite à un malentendu, une unité va en entraîner une autre, et puis finalement c'est toute la cavalerie française qui sera emportée. Quand Napoléon voit ça, il est furieux, mais il dit le mal qui est fait, et il va envoyer encore plus de cavalerie pour soutenir ceux qui ont déjà été envoyés, et donc toute la cavalerie française va y passer. C'est ce que nous allons voir dans l'animation qui suit. Non, un peu plus loin. Donc je parlais des combats pour Hougoumont. Hougoumont ici va absorber beaucoup de troupes. Les Français vont utiliser, je crois, 5 fois plus de troupes que les Britanniques dans ce combat. À un moment, il y a quelques Français qui vont réussir à pénétrer, mais ce sera sans issue. Pendant ce temps-là, loin à l'est, les premiers Prussiens arrivent. Et là, c'est le monument au comte Schwerin qui a été érigé à l'endroit où il a été enterré. C'est une des toutes premières victimes prussiennes de la bataille. À 16h, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, ce que je vous ai dit, ça, c'est la cavalerie française qui va charger sur l'aile droite britannique. Mais les Anglais ne sont absolument pas désorganisés, et ils vont se mettre en carré. Le carré, c'est le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure, et ça permet très bien de résister aux attaques de cavalerie. Ça veut dire que ça ne va pas être efficace, et toute la cavalerie française va être usée et va être inutilisable pour le restant de la bataille, tout simplement pour un bénéfice relativement faible. Alors, les grandes charges, évidemment, c'est le moment qui est représenté sur le panorama de la bataille de Waterloo. Et alors, je vais vous montrer ici, c'est un petit film qui est extrait d'une émission que les grandes batailles de l'histoire de Turenne et Costel des années 70. Et pour l'occasion, on avait demandé à la garde républicaine, qui était encore à l'époque à plein effectif, de simuler une charge napoléonienne. Donc les uniformes ne sont pas corrects, mais la, c'est une représentation presque unique d'une charge de cavalerie d'un seul régiment. Donc la charge à Waterloo, c'était plusieurs milliers de cavaliers. Ici, vous n'avez que quelques centaines. Donc, une charge, contrairement à ce qu'on croit, ça commence vraiment au pas. Au pas, il ne faut pas oublier non plus que le terrain est extrêmement gras à cause des pluies, il n'a pas arrêté de pleuvoir. On commence au pas, on reste bien en ordre, en ligne, parce que c'est en étant bien compact qu'on aura le meilleur effet. Et puis, du pas, on va à un petit trot. Les trompettes qui accompagnent, les trompettes ont un cheval blanc. Pourquoi? Parce que ça permet aux officiers de les repérer dans les combats, et donc ils savent, parce que tous les ordres sont transmis via les trompettes. Donc c'est grâce à cela. Autre chose, vous voyez, le premier rang tient le sabre vers l'avant, et les rangs suivants, ils le tiennent droit. Pourquoi? Parce que si eux, le deuxième rang pointe également, si le premier s'arrête, ils l'embrochent. C'est logique, mais ce n'est pas toujours comme ça que c'est représenté dans les films. Et également, c'est pour ça que les unités de lanciers, il y a des lances pour le premier rang, et les rangs suivants, évidemment, ils ont le sabre, parce que sinon, ils vont embrocher leurs copains. Donc également, une unité de lanciers n'a de lancier de lance que pour la moitié. Et ensuite, à la fin, pour les quelques dernières dizaines de mètres, on se met au galop, et là, c'est la charge, et... on est rapidement désorganisé. Maintenant, ils vont charger dans un espace tellement réduit que il y a des témoignages de cavaliers qui ont dit qu'ils avaient été soulevés, parce que donc pris entre un cavalier à gauche, un cavalier à droite, ils sentaient que le cheval n'avait plus les jambes qui touchaient terre. Ils étaient soulevés de terre tellement ils étaient compacts. Et évidemment, ils étaient beaucoup trop nombreux, et vous voyez que même comme ça, on se désorganise rapidement. En même temps, il y a l'attaque massive du 4e corps de Bülow sur Plancenoit. C'est le village de Plancenoit, peut-être qu'il est de nos jours. Et donc, à 17h, vous avez les charges de cavalerie qui continuent. Et vous voyez ici les Prussiens qui arrivent, 1er corps de Bülow. Ici est Plancenoit, donc ici on est encore loin. Les Prussiens sortent du bois de Paris et les combats s'engagent avec le 6e corps de Drouot, qui est une petite unité comparée aux autres corps, et elle va devoir faiblir et céder du terrain face au 4e corps de Bülow. Le 4e corps de Bülow est un corps qui n'a pas été engagé à Ligny. À ce moment-là, ils ont reçu les ordres trop tard, grosse erreur prussienne, et ils étaient encore en marche à partir de Liège. Et donc là, ils sont repoussés jusque vers Plancenoit. Donc, continue les charges. Vous voyez ici, c'est un très beau tableau qui est au musée de l'armée à Bruxelles. C'est la charge des carabiniers belges contre les cuirassiers français. Mais il ne faut pas oublier toujours que à la vallée de Waterloo, il y avait environ 4000 Belges du côté des Alliés et 4000 Belges du côté français. Donc, il y avait encore énormément de soldats, de Belges qui servaient dans l'armée de Napoléon. Et ce que vous voyez là, c'est le monument au lieutenant de Mulder qui était né à Jodogne. Donc il y a quelques monuments... Non, à Nivelles, pardon. Alors, à 18h, on a ceci, la fin des charges de cavalerie et les Prussiens qui continuent à progresser. Et vous voyez que pour ceux-ci, premier corps de Derlan, ça devient quand même un peu critique parce qu'ils entendent derrière eux des Prussiens. Vous voyez ici, ils sont bien protégés par la cavalerie, mais vous voyez que c'est quand même pas très sain. Ça fait comme un peu un champignon, vous voyez, comme ça. Et les Prussiens progressent, ils progressent. Et Bülow va réussir à chasser le 6e corps de Lobau de Plancenoit. Mais Napoléon sait que si les Prussiens passent ici, il est encerclé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la jeune garde en renfort. Et que va faire la jeune garde? Elle va réussir à reprendre le village de Plancenoit. Et alors, ici, on est au climax de la bataille pour les Français. ici, vraiment, vers 18h, 18h30, les Français sont le plus près de la victoire parce qu'ils réussissent à prendre la ferme de la Haie Sainte au centre du dispositif. Ça veut dire qu'ils vont savoir s'approcher jusqu'à 200 mètres de l'endroit où Wellington a pris place, à 200 mètres des lignes. Ils vont réussir à amener des canons et ils vont réussir à tirer de l'autre côté de la crête. Et ils vont organiser, ils vont causer énormément de pertes. Les grosses pertes des alliés, c'est à ce moment-là. Là, les Français sont vraiment très proches de la victoire après la prise de la Haie Sainte. Le monument qui commémore cette prise, le monument hanovrien, parce que là, c'était la King's German Legion, donc l'élite dont je vous ai parlé, qui tenait cela, et le monument est en face, sur un endroit qui est très vraisemblablement une des grandes tombes communes de la bataille. Alors le monument que vous voyez à gauche est un monument qui a été érigé. C'est le plus grand monument de la bataille de Waterloo, et ce n'est pas le lion, c'est sur la Waterlooplatz à Hanovre qu'il y a cette colonne, et dans la base de la colonne, vous avez même 6 canons français capturés à Waterloo. Donc à Hanovre. C'est aussi à ce moment-là que le prince d'Orange va être blessé. Et vous savez que le lion de Waterloo a été érigé sur ordre du roi Guillaume de Hollande à l'endroit où son fils a été blessé. Et c'est ça le lion. Donc c'est bien un lion hollandais et absolument pas britannique. Alors ici, le monument au 8e de ligne et un peu plus loin, le monument aux Inniskillings, qui sont donc des Gallois, et qui ont subi plus de 50% de pertes, surtout à ce moment-là, de la bataille. Mais dans Plancenoit, le 6e corps de Lobau est attaqué, le 4e corps, il est repoussé, la jeune garde intervient, et vous voyez ici donc le lieutenant Louis, qui était dans la garde impériale, et qui lui était né à Jodogne, et il est mort à Plancenoit. Les combats pour Plancenoit, la jeune garde intervient et repousse les Prussiens. Et ici, bon, ça c'est la jeune garde qui arrive, mais vous avez ici le 4e corps de Bülow, en même temps vous voyez ici le 2e corps de Pirck qui intervient et les premiers éléments du corps de Zieten, le premier corps qui arrive à ce moment-là. Que vont-ils faire? La première giffon, ils se mettent à tirer sur des Nassoviens qui sont dans, près de la ferme de la Papelotte. Tout simplement parce qu'ils ont encore le même uniforme qu'ils portaient du temps où ils servaient Napoléon. Donc les Prussiens les prennent pour des Français. Et ça va prendre plus de 20 minutes avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils tirent sur leurs alliés. Et donc, premier corps arrive, prussien arrive ici, le deuxième arrive ici et le quatrième est ici. Mais le quatrième, comme le sixième corps français, sont totalement épuisés. Alors, Napoléon va dire « c'est le moment ou jamais » et en fait, non, le moment est passé pour engager la garde. S'il avait engagé la garde au moment où on a pris la Haie Sainte et on arrive très près, sans doute à cet endroit-là, ils auraient pu percer. Mais Napoléon n'a pas osé parce que la garde, c'est vraiment son ultime recours et il ne savait pas ce qui allait se passer à Plancenoit, donc il a préféré attendre et il a laissé passer la chance. Donc, la garde va attaquer. Ici, d'abord, ces unités-là, des chasseurs, vont être défaits par les troupes de Halkett. Pendant ce temps-là, en fait, il y a trois vagues. Première vague ici, deuxième vague ici, troisième vague ici. Et c'est aussi à ce moment-là que Lord Uxbridge, commandant de la cavalerie britannique, va être gravement blessé et où le colonel Gordon, dont le monument se trouve ici, sur le champ de bataille, et de corps de Wellington sera également tué. Donc c'est aussi un moment critique. Ici, cette partie-là du 3e grenadier est repoussée. Deuxième phase, un quart d'heure plus tard, le 3e chasseur est repoussé, cette fois-ci par les gardes de Maitland. Et en même temps, ici, il y a des troupes hollando-belges, Detmer, qui vont prendre la garde en enfilade et vont également provoquer de lourdes pertes. Et alors, les troisièmes, le quatrième chasseur continue tout seul, donc les autres sont déjà
défait, il continue et lui, il va être pris de flanc par le 52e d'infanterie britannique. Et là aussi, ils ne vont pas avoir résisté. À ce moment-là, c'est le moment que Wellington choisit pour lancer l'attaque de la garde. Et après le troisième échec de la garde, c'est le recul général des Français. La garde recule, ça ne s'est jamais vu de toute l'histoire napoléonienne. Et donc, c'est vraiment le coup au moral fatal pour les Français. Et donc, nous voyons là la débandade française, ici également. Évidemment, les Prussiens interviennent. Napoléon va encore envoyer quelques unités de la vieille garde, avant l'attaque de la garde, envoyer pour la vieille garde dans Plancenoit et va repousser encore une fois les Prussiens. Donc, vous voyez le nombre d'allers-retours. Mais finalement, ça ne servira à rien. Et voilà les quelques unités françaises, le fameux dernier carré qui se replie. Les Anglais, enfin les Hollandais, Belges, Alliés, Coalisés, sont tout à fait épuisés. Ici, en fait, il y a la cavalerie qui n'a plus servi. Et les Prussiens, eux, sont quand même relativement frais. Et c'est eux, après avoir pris, donc c'est le deuxième corps de Pirch, mais qui sera appuyé par le quatrième de Bülow, qui est quand même quasiment épuisé, qui va finalement enlever Plancenoit, mais seulement, non pas par sa propre action, mais parce que tout le reste de l'armée française s'est écroulé. Alors, les derniers carrés, la poursuite, il y a le monument de l'aigle blessé qui a été érigé plus ou moins à l'endroit où les derniers carrés ont résisté. Napoléon veut se jeter dans la bataille, mais ses généraux l'en empêchent et il doit s'enfuir dans sa berline qui sera capturée par les Prussiens au nord de Genappe. Les derniers carrés résistent. Cambronne sera capturée par le général Halkett. Et à la fin de la bataille, finalement, les Prussiens n'ont plus, l'infanterie prussienne est relativement épuisée, donc c'est la cavalerie prussienne qui va engager la poursuite. Et vous voyez ici, la cavalerie prussienne qui va foncer sur Genappe, où les Français se replient. Alors, à la fin de la bataille, la rencontre entre Wellington et Blücher, près de la ferme de la Belle Alliance, c'est pour ça que les Allemands, les Prussiens ont voulu nommer cette bataille, bataille de Belle Alliance, mais ça ne se fera pas, parce que Wellington imposera Waterloo. Et parlons un peu des pertes. Les pertes dans les batailles, dans toutes les guerres, ce ne sont pas les morts, c'est les morts, les blessés, les prisonniers, les disparus et les déserteurs. Donc parfois, quand les gens, surtout les journalistes, disent autant de pertes, ils disent autant de morts. C'est tout à fait faux. En pourcentage, les pertes en morts et en blessés sont plus élevées chez les officiers que chez la troupe. Mais l'officier a moins de risques de mourir de maladie, et s'il est blessé, il sera mieux soigné, donc il a une plus grande chance de survie. Donc l'un compensant un peu l'autre, finalement, les officiers sont quand même plus vulnérables que la troupe. Alors, les pertes, dans les guerres napoléoniennes, les morts, ce n'est pas que les morts au combat. Dans les guerres napoléoniennes, en fonction des campagnes, jusqu'à 7 morts sur 8 ne sont pas dues au combat. Donc, c'est les maladies, les épidémies, par exemple l'épidémie de typhus à partir de fin 12, la captivité, l'épuisement, la malnutrition, la faim, froid, accident, assassinat, suicide, etc. Ça cause beaucoup plus de morts que les combats. Mais c'est extrêmement variable d'une campagne à l'autre. Alors, des blessés, quel est leur sort? Ça varie également ces pourcentages fortement en fonction d'une campagne à l'autre. 25% des blessés meurent de blessures, 25% restent handicapés, surtout ceux qu'on a dû amputer, 25% se remettent mais à long terme, et 25% rejoignent leur unité à court terme. Donc c'est fort variable. Si vous comparez, en 1815, 9% des blessés britanniques succombent. Pendant la guerre de 14-18, c'est 8%. Donc il ne faut pas croire qu'il y a une telle différence et qu'en 14-18, la situation des blessés était tellement mieux, tellement meilleure que l'époque napoléonienne. Vous voyez, il n'y a qu'1% de différence. Les pertes à Waterloo, elles sont terribles, évidemment, surtout pour les Français. 22 000 blessés, près de 7 000 morts, et 10 000 prisonniers non blessés. Donc au total, 38 000. Donc ça fait des pertes de 50%. Donc 50% en termes militaires, c'est vraiment un taux d'attrition qui peut rendre une unité tout à fait non opérationnelle. Et l'armée du Nord, Napoléon, n'est plus opérationnelle. Côté allié, vous voyez les chiffres. 20% seulement. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Et vous voyez, les Français ont perdu 2 aigles, 2 drapeaux, tandis que les Alliés ont perdu 6 emblèmes. Vous voyez, ça ne fait pas tout. Alors, le petit jeu, qui a fait le plus d'erreurs? Tout le monde a l'habitude de dire Napoléon a fait plein d'erreurs, mais il n'est pas le seul. Voyons. Wellington. Premièrement, il ne tient pas compte des avertissements de Constant Rebec, chef d'état-major hollandais, le 15. Constant Rebec dit Napoléon attaque, il a franchi la frontière. Wellington n'en tient pas compte. Il tarde à envoyer ses troupes vers le sud. Il attend le 16 à 1h. Donc il a déjà perdu 12 heures. Il ordonne d'abandonner les 4 bras. Mais Constant Rebec et Père Poncher refusent. Et Wellington ordonne concentration à Nivelle. Les Hollandais ne le font pas, les Hollandais belges. Il est toujours persuadé, il est même obnubilé par une attaque par Mons. Il est aussi persuadé d'avoir toujours raison. Il ne supporte pas qu'on conteste ses ordres. On dit que Napoléon, c'est quelqu'un, entre guillemets, dictateur, qui ne veut pas qu'on conteste ses ordres. Wellington est exactement du même type. Il a fait une trop grande dispersion de ses troupes sur un front beaucoup trop large, et donc ils sont trop difficiles à rassembler, et ses troupes se rassemblent très lentement. Il est obsédé par sa ligne de repli sur Ostende, ou Gand, je vous ai dit pourquoi, alors qu'il peut très bien se retirer par Anvers. Il a vraiment une aile droite hypertrophiée, je vous ai dit, les 17 000 hommes qui sont à Halle. Voilà. Et conclusion, il a commis des erreurs stratégiques qui sont compensées par de bonnes décisions des subordonnés et des bonnes décisions tactiques. Bonne décision tactique, c'est de se mettre à le reverse slope tactique, donc à l'arrière de la crête. Bonne décision tactique. Décision subordonnée, Constant Rebec, Père Poncher, qui vont à l'encontre de ses ordres. S'ils avaient été des Anglais, ils les auraient virés. Mais comme c'était des Hollandais, ils ne pouvaient pas. Alors, Blücher n'est pas indemne non plus. Il envoie des ordres trop tardifs à Bülow, qui se trouve encore à Liège au début de la campagne. Il hésite entre ses lignes de communication et la liaison avec Wellington. Il veut un peu faire des deux, et finalement, il ne fait rien des deux correctement. À Ligny, il expose ses troupes au feu d'artillerie française. Il combat dos à l'obstacle. Il a une position de défense acharnée à Saint-Amand qui est beaucoup trop ensaillie. Il tend finalement la perche aux Français. Il y a la méfiance de Gneisenau envers Wellington. Il y a la non-utilisation ou la mauvaise utilisation du 3e corps et des réserves. 24 000 hommes qui ne va pas, quasiment pas utiliser ou pas bien utiliser. Il n'attaque pas le flanc droit français pour soulager Ligny, ce qu'il aurait pu faire pour prendre Gérard Antenaille avec le 3e corps. Il ne l'a pas fait. Ses contre-attaques sont mal coordonnées. Il occupe Wagnelet trop tardivement. Conclusion, Blücher a commis des erreurs tactiques compensées par de bonnes décisions stratégiques. Ces bonnes décisions stratégiques, ce n'est pas les siennes, ce sont celles de son chef d'état-major Gneisenau. Alors, le pompon, c'est quand même Napoléon. Attention, ici, j'ai rassemblé les erreurs de Napoléon, mais également tout ce qui a mal tourné du côté français. Donc, tout n'est pas à mettre au débit de Napoléon. Il a dispersé des troupes au sud, au sud-ouest, à l'ouest. Ça se défendait quand même, mais il aurait pu à la rigueur laisser la Vendée aux royalistes. S'ils remportaient la victoire, il était très facile de les balayer parce que ce n'était pas des troupes organisées. Fallait-il laisser 20 000 hommes là-bas? Un très mauvais casting, entre guillemets, Soult, qui est détesté par les autres, Davout, qui est le meilleur maréchal et qui reste à Paris. Mais il avait besoin de quelqu'un de fidèle à Paris pour éviter un coup d'État contre lui. Donc ça, on peut comprendre. Suchet, très bon maréchal, mais il est sur un front secondaire. Il aurait peut-être été utile. Rapp également. Il y a des rivalités, des méfiances, des suspicions dans l'armée française, surtout à haut niveau. Ney, qui ne pousse pas plus loin le 15, mais il a une excuse, c'est qu'il arrive seulement le 15 finalement. Le 16, il hésite, mais il n'a pas des ordres clairs. Il y a une perte de temps impardonnable de Vandamme, qui n'hésite, qui n'agit pas le soir du 15 et le 16 au matin, tout simplement parce qu'il est jaloux et il a été placé sous les ordres de Grouchy. Grouchy a été mis par Napoléon au commandement de l'aile droite, mais il a des subordonnés qui refusent de lui obéir. C'était inadmissible, évidemment. Il y a les marges et les contre-marges du premier corps, c'est pas la faute de Napoléon, mais c'est quelque chose qui a vraiment foiré du côté français. On laisse échapper l'ennemi au soir de Ligny, alors qu'il est vraiment à portée. Clausewitz qui trouve que Napoléon a été beaucoup trop prudent pendant cette campagne. La perte de nez, perte de temps de nez, le 17. Mais surtout, la perte de temps de Napoléon, le 17. Pendant plus de 12 heures, il ne fait strictement rien. le temps pour les Prussiens de s'en aller. L'imprécision des ordres a né le 16 et a grouchi le 17 et le 18. Ça, c'est la faute de Napoléon. Pas vraiment, c'est la faute de Soult qui a traduit ses ordres, mais il n'en est pas capable. Berthier aurait fait ça sans problème, traduire les idées du maître, Soult en était incapable. Mauvais travail d'état-major, voilà, on y arrive. Alors, excès de confiance de Napoléon. Il dit, ce ne sera le matin de Waterloo, ce ne sera que l'affaire d'un déjeuner. Il a un excès de confiance à Bonne Étoile, mais on a l'habitude de dire que la Bonne Étoile de Napoléon, c'était Joséphine. Et Joséphine est morte depuis un an, alors il n'a aucune imagination le 18. Il donne des coups de butoir. Le plan tactique de Napoléon à Waterloo, il ne ressemble à rien. Il envoie ses troupes droit devant, comme si on veut enfoncer une porte. Il n'y a pas de mouvement tournant, il n'y a rien. Mais un manque d'énergie de Napoléon, il laisse finalement l'aile gauche à Waterloo, il laisse le commandement à Ney. Mauvais suivi des actions des subordonnés. Le deuxième corps de Rey qui va entièrement être absorbé par les combats pour Hougoumont pour rien. Et il ne surveille pas Ney. La formation du premier corps, la façon dont il a attaqué. Il laisse gâcher toute la cavalerie, j'en ai parlé. Il laisse passer la chance de percer la ligne de Wellington de 18 à 18h30. L'attaque de la garde, elle est trop tardive et au mauvais endroit. Conclusion, il a pris d'excellentes décisions stratégiques, mais elles ont été gâchées par une exécution brouillonne, un excès de confiance de sa part, des négligences, et ses erreurs ont été renforcées par les erreurs de ses subordonnés. Alors, malgré tout, il y a une autre bataille dont on ne parle pas beaucoup, c'est celle de Wavre. Vous voyez, les troupes, Grouchy qui a affronté Thielmann. Ici, le troisième corps va attaquer Wavre, tandis que le quatrième corps de Gérard va attaquer à Bierge. Et puis finalement, ici, c'est Pajol qui va trouver le passage qui n'est pas défendu par les Prussiens au sud. Le pont du Christ à Wavre, témoin des combats. Un monument, petite plaque pour les Suisses, bataille de Wavre. Dans l'église, il y a un boulet fixé dans un des piliers. La bataille de Wavre, le moulin de Bierge, qui a été détruit depuis lors, et le monument au général Gérard. Je note, héros de l'Empire et défenseur de notre indépendance, parce que c'est ce même Gérard qui va revenir en 1831 1832, faire le siège d'Anvers, et qui va éjecter les Hollandais, qui se trouvaient, dont certains généraux comme Chassé, se trouvaient à Waterloo dans l'autre camp. Donc l'indépendance belge est vraiment la revanche de Waterloo. La bataille de Havre, sous un beau plan allemand, ferme de la Bourse, où Grouchy passera le soir du 18, et le matin du 19, il va arriver jusqu'à la ferme de la Bavette, et c'est là, dans ces environs-là, qu'il va apprendre la défaite de Waterloo. Donc le lendemain, entre-temps, il a déjà repoussé les Prussiens. C'est une victoire, mais une victoire qui ne sert à rien finalement, parce que dès qu'il apprend la défaite de Waterloo, il fait demi-tour et il part en direction de Namur. Et alors, il va faire une excellente retraite, très bien organisée. On a dit qu'il n'a perdu ni un canon, ni un drapeau, et il a pu emporter tous ses blessés. C'est vrai, mais je viens de trouver qu'il a perdu quand même un canon. Il en a perdu trois, il en a recapturé deux, il en a quand même un qui est resté aux mains des Prussiens. Un détail. Bon, combat de Namur, le 20. Donc finalement, vous voyez Namur encore entouré de ses murailles, ici, et les Français vont maintenir la porte fermée ici. Pendant ce temps-là, tout le reste de l'armée va s'évacuer et les Prussiens en seront pour leur compte. Au cimetière de Belgrade, il y a la tombe du colonel von Zastrow, colonel prussien tué au combat de Wavre. Voilà la porte, une autre plaque de la CMN, à la porte de Bruxelles, de Namur. Alors, les pertes de la campagne, les effectifs de Wellington. Vous voyez, dans l'armée de Wellington, la plus grande nationalité, ce sont les Allemands, près de 40%, les Britanniques 35%, les Néerlandais 26%. Donc Allemands, je sais bien que c'est un peu un anachronisme, mais ce sont des germanophones, ce sont les Hanovriens, les Nassoviens, les Brunswickois. La plus grande partie de l'armée de Wellington est donc composée d'Allemands. Dans l'armée de Blücher, évidemment, ce sont tous des Allemands, parce que c'est des Prussiens. C'est 28% des effectifs totaux. Quand vous regardez les pertes, les Perses, c'est 28% des effectifs chez les Prussiens, tandis que chez les Anglais, c'est 26%, chez les Allemands de Wellington, 16%, et les Néerlandais, 17%. Donc, si on compte les pertes de la campagne, vous faites additionner les Allemands avec les Prussiens, et vous arrivez à la conclusion que 3/4 des pertes alliées de la campagne 1815 sont des pertes allemandes. contre 17% britanniques et 8% pour les Néerlandais. Néerlandais, donc hollando-belge. Alors, il y a encore des combats en France, Rochervière, en Vendée, victoire des armées napoléoniennes. Il y a la paix de Cholet, mais ce sont les perdants qui sont les vainqueurs. Parce qu'entre-temps, la nouvelle Waterloo arrive, et ce sont ceux qui ont perdu sur le terrain qui sont les vainqueurs. Mais on continue des combats, même Napoléon abdique le 22. Mais la situation est très très vague, on ne sait pas exactement si on continue ou on ne continue pas. À Fussmann, dans le territoire de Belfort, j'ai retrouvé cette tombe d'un baron autrichien, tombé le 1er juillet 1815. Le 1er juillet 1815, c'est également le jour de la dernière victoire française à Roquencourt, où les Prussiens, imprudemment avancés, vont être étriés. Une cavalerie prussienne qui va se réfugier dans cette ferme, et puis finalement, sur 750, il y en a 500 qui vont être capturés. Alors, à Vincennes, Vincennes va tenir jusqu'au 15 novembre 1815. Napoléon est déjà à Sainte-Hélène à ce moment-là. Les Cosaques vont reprendre leurs habitudes de l'année précédente, ils vont arriver sur les Champs-Élysées, mais la guerre n'est pas finie. Et là, il y a la guerre des sièges. Vous voyez ici jusqu'où et quand ils ont duré, dans différents... Thionville, Hugo, c'est le général Hugo, le père de Victor Hugo. Vous voyez, certains sièges durent plus longtemps que d'autres. Barbanègre à Huningue, également célèbre. Rapp à Strasbourg. Charleville, Valenciennes, Condé, Longwy, etc. Alors, le pire pour l'armée napoléonienne, dissolution de l'armée impériale par l'ordonnance royale du 16 juillet, qui sera signée au château d'Olivet, près d'Orléans. Et alors chez nous, parfois, on trouve des petites choses comme ça. À Bonnef, dans la province de Namur, il y a une chapelle Saint-Pierre. Et l'inscription est la suivante. Saint-Pierre, protégez-nous comme vous nous avez protégés des Cosaques en 14 et des Bûchères en 15. C'est assez typique. Et vous voyez, elle est encore bien entretenue. Elle est en très bel état. Second traité de Paris. En plus de ce qui a été décidé à Vienne qu'on a vu précédemment, la France est ramenée à ses frontières de 1790. Elle perd à la Prusse, Landau, Sarrebruck, Saint-Louis, et aux Pays-Bas, Bouillon, Philippeville, Marienbourg. Et ça fait que, évidemment, en 1830, la Belgique sera plus grande de cela, qui n'avait jamais été belge finalement. En plus, elle doit payer 700 millions de francs en indemnité, elle doit régler les traitements des troupes de ses anciens États alliés, et elle doit entretenir une armée d'occupation de garantie pour le paiement de ces 700 millions, de 150 millions pour 5 ans. Mais la France va payer tellement vite qu'après 3 ans, ils vont partir. Voilà les zones d'occupation. On connaît l'occupation de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Et bien voilà la répartition des zones telle qu'elle a été faite entre 1815 et 1818. Donc vous voyez, les Russes, les Britanniques, les Prussiens, les Bavarois, les Autrichiens, même les Suisses et les Sardes. Et en novembre 18, par le congrès d'Aix-la-Chapelle, la France réintègre le Conseil des Nations et on lui permet de rejoindre le traité de la Sainte Alliance. Mais ce n'est pas fini. Il y aura la terreur blanche. Donc ce sont tous les massacres des soldats fidèles à l'Empire. À Marseille, on va assassiner 163 soldats et 250 mamelouks et leurs familles, avec des scènes tout à fait comparables à ce qui est arrivé aux Harkis après la guerre d'Algérie. Les Marseillais ont appelé ça le jour de la farce. On massacre des gendarmes, des soldats retraités à Avignon, plusieurs centaines sont massacrés, dont le maréchal Brune, qu'on accusera d'avoir tué la duchesse de Lamballe alors qu'il n'était même pas à Paris pendant la Révolution. Donc vous voyez, c'est des haines qui remontent très loin. À Montpellier, plus de 100 morts. À Nîmes, la bande des Trestaillons tue 450 personnes. À Uzès, par analogie, c'est les 4 taillons qui tuent 12 personnes. À Toulouse, on massacre le général Ramel. Et alors, ça ne suffit pas. Il y a aussi les cours prévôtales qui rappellent tout à fait les tribunaux révolutionnaires. C'est un tribunal finalement où la défense n'a rien à dire. Et avec les cours d'assises, des conseils de guerre, 19 généraux sont condamnés à mort, dont la Bédoyère, Ney, Chartrand, Mouton du Vernet, La Valette, Lefebvre d'Esnouette. Une partie va réussir à fuir, en Amérique principalement. Ney, Chartrand, la Bédoyère seront fusillés. Et d'ailleurs, sur la tombe de Chartrand à Lille, il y a marqué « assassiné judiciairement ». mais ça dure longtemps, hein, ça dure jusqu'en 1816. En Suisse également, je vous ai montré la plaque des Suisses à Wavre. Quand ceux qui reviennent et qui ont servi Napoléon vont être flagellés en public et vont être rasés et bannis de la société. Donc pour dire, même à l'étranger. La Terreur blanche, donc plus de 1200 assassinats et lynchages, et des dizaines de condamnations à mort, 9000 condamnations politiques, des milliers de destitutions, des préfets par exemple, et 25 000 personnes partent en exil. Mais ça ne s'arrête pas après, en 1818, etc. Il y a des provocations royalistes qui vont faire que on va simuler de faux complots napoléonien ou bonapartiste pour piéger des gens qui sont fidèles. Donc il y en a qui vont, la police va infiltrer, va dire on prépare, est-ce que tu es de notre bord, le type il dit oui, et puis finalement c'était un piège, il est arrêté et plusieurs sont condamnés à mort, les quatre sergents de La Rochelle, le général Berton, le colonel Caron, etc., donc jusqu'en 1822, etc., etc. Mais l'épilogue, quand même, pour finir sur une note positive, c'est que, malgré Waterloo, les idées de la Révolution vont survivre et elles triompheront en France avec la Révolution 1830 et évidemment également chez nous avec notre Révolution belge qui est, comme je dis, un peu la revanche. Alors, comme bibliographie, il y a plusieurs numéros de la revue, dont un qui sortira bientôt, dans lequel j'ai écrit un article important sur la bataille de Ligny. D'autres, celui de Thierry Lenz, qui est pas mal du tout, puis le commandant Lachouc. Les batailles oubliées, surtout les batailles dont j'ai traité ici. Ligny, Wavre, Quatre Bras, ces livres sont vraiment très bien, pas très chers, donc je vous les recommande. Un peu plus coûteux, c'est la collection des carnets de la campagne. C'est très fouillé, c'est coûteux, mais là vous en avez pour votre argent, il y en a déjà 13. Et alors, également, du côté la bataille et la campagne vue du côté prussien par Peter Hofscher, qui sont également très bien, mais qui n'existent pas en français. Voilà, je vous remercie.
Merci, Monsieur Clément-Mans, et merci pour cet exposé très exhaustif, très bien documenté. Je pense que nous avons peut-être 10 minutes, un quart d'heure.
Si... Aucun problème pour moi.
Ben voilà. Donc, la parole est à la salle et vous avez certainement des questions à poser à notre orateur, même si nous avons bien compris à certains moments dans quel camp vous vous seriez trouvé en 1815.
Je ne me gêne pas.
Je vous en prie.
Oui, justement, tout d'abord, mes félicitations. J'ai une question à vous poser et puis deux remarques à vous faire.
Oui.
Donc je disais d'abord félicitations pour le très bel exposé. J'ai une question à vous poser et deux remarques à vous faire. Je vais commencer par les remarques. Justement, je trouve que vous êtes très élogieux à l'égard de Napoléon et très critique à l'égard de Louis XVIII. Bon, je suis d'accord pour cette période où il a commis beaucoup d'erreurs. Je suis quand même beaucoup plus dubitatif pour le... Quant à votre point de vue sur le restant de son règne, il s'est quand même montré un souverain qui a su intégrer la Constitution dans le droit français, ce que n'a pas fait Napoléon. Parce que vous dites que vous en faites un peu un démocrate. Alors bon, vous dites qu'il abolit l'esclavage, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui l'a rétabli.
Oui, tout à fait.
Bon. Et bon, je pense que c'est un homme de génie, mais c'est aussi un opportuniste. Donc la démocratie est à cette époque, enfin, au moment de son retour, c'est un opportunisme. Bon, voilà. Alors la question que je voulais vous poser, est-ce que la ferme qui était l'ancien Dancing aux quatre bras existait à l'époque ?
Oui, certainement, certainement.
Oui.
Certainement, oui, sans aucun doute. Il y a de nombreux dessins d'immédiatement après la bataille qui montrent la ferme dans l'état où elle est maintenant.
Ah oui.
Enfin, en meilleur état, évidemment, mais très, très semblable à ce qu'on a maintenant.
Et alors encore une dernière question. Le général Berlon qui a fait des allers-retours entre les quatre bras et Ligny, en fait, pourquoi ?
Parce que normalement il était placé sous les ordres de Ney, mais Napoléon l'a rappelé. Et ben on ne sait pas exactement si c'est vraiment Napoléon qui a donné cet ordre, parce que l'ordre a disparu. On ne sait pas exactement qui a donné l'ordre de rappeler d'Erlon. Merci. On ne sait pas exactement qui a donné cet ordre de rappeler, mais c'était tout à fait logique. Et quand Ney a vu qu'un... parce que vous voyez, Ney n'a pas énormément de troupes. Il a un corps, il y a le deuxième corps de rey et il a un peu de cavalerie. Quand il voit qu'un des deux corps qu'il peut utiliser s'en va, que fait-il? Tout à fait logique. Il ne sait pas que c'est Napoléon ou que c'est sous ordre Napoléon. Donc il le rappelle. Et d'Erlon, il est un peu assis entre deux chaises, donc il ne sait pas ce qu'il doit faire, et il obéit à celui qui est son supérieur, à Ney, puisque l'ordre, on ne sait pas exactement s'il venait effectivement de Napoléon. Et c'est pour ça qu'il ne va pas servir sur le champ de bataille de Ligny, de quatre bras, et il ne va pas servir à Ligny non plus. Et c'est un des grands mystères, on ne sait pas qui ni pourquoi. On n'a jamais retrouvé les ordres, parce qu'évidemment, les ordres, normalement, ils sont notés, et du côté allié, tout ça a été bien enregistré, mais dans la pagaille et le désordre français qu'il y a eu après la retraite, tout ça a été perdu. Maintenant, concernant la critique, vous avez tout à fait raison, et en fait, je ne me cache pas, parce qu'à ce moment-là, quand je dis « je prends position », c'est clair. Il y a des gens qui ne prennent pas, qui ne disent pas qu'ils prennent position et qui prennent quand même position. Donc, moi, je joue carte sur table. D'autre part, concernant l'esclavage, vous avez raison, mais il faut quand même aussi dire que quand la Convention a aboli l'esclavage, c'était pour l'immense majorité des territoires qui avaient été saisis par les Anglais. Donc, c'était un pour ennuyer les Anglais, parce qu'en promettant la liberté aux esclaves, les Anglais étaient fort ennuyés, parce qu'ils occupaient ces îles. Et deuxièmement, ça a été fait dans une séance nocturne où il y avait très peu de membres qui ont voté. Après coup, on a monté ça en épingle, on dit Napoléon, affreux esclavagiste, mais Napoléon a réintroduit cela tout simplement quand la France a récupéré ces pays, ces îles. Et deuxièmement, parce que c'était un moyen pour lutter contre le chômage en France. On dit que ça faisait une différence de 10% pour le chômage, et de nos jours, parce que bon, faut pas oublier non plus que l'Église avait longtemps hésité pour savoir si les gens en Amérique du Sud avaient une âme ou pas, hein. Donc c'était seulement 150 ans avant ça. Donc, pardon ? Bon, d'accord. Ah oui, là je suis d'accord, mais ils ont été mal vus aussi de l'Église, enfin bon.
Je vous propose un débat.
Oui, d'accord. Ok.
Une autre question, s'il vous plaît.
Oui, ben moi.
Oui, Berthe.
Ce qui est maintenant le musée Gérard à Ligny, c'était quoi au moment de la bataille?
C'est une très bonne question. C'était une simple ferme qui a été grandement détruite pendant la bataille et qui est restée très longtemps en ruine. Et quand on a créé le centre général Gérard, on l'a réhabilité. Mais elle n'a pas joué un rôle important dans la bataille.
Le général Gérard, c'est le beau-père d'Edmond Rostand.
C'est possible, je ne sais pas.
Je crois que
ça... Ah, c'est très possible.
Sa fille Rosemont Gérard, c'était Madame Rostand.
Ah oui,
c'était
oui.
La fille du général.
Waterloo a été une immense boucherie. Les combats ont été cruels. Ney a usé, je crois, 7 chevaux qui sont morts en dessous de lui. Les deuxièmes lignes poussaient les premières lignes, les troisièmes lignes poussaient les secondes lignes, tout on empêchait la désertion évidemment au maximum. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails concernant l'organisation des soins aux blessés et l'organisation du service de santé?
Je ne suis absolument pas un spécialiste. Il y a beaucoup de gens qui se sont spécialisés là-dedans, et ce qui est remarquable, c'est que ce sont principalement des médecins de nos jours, même beaucoup de reconstitueurs de médecins sont des médecins de nos jours. Je dois dire, Napoléon les soins aux blessés étaient mieux organisés du côté français que du côté allié, parce que c'est surtout l'arrêt qui a développé cela et qui a, entre autres, pour des raisons médicales, il avait constaté que si on soignait ou même si on amputait quelqu'un rapidement après la blessure, les chances de survie étaient nettement supérieures à celles du blessé qu'on laissait pendant 12 ou 24 heures ou plus avant d'opérer, avant d'amputer. Parce que comme ça, le choc de la blessure et le choc de l'amputation ou des soins se combinaient et c'était moins grave pour le blessé. Il avait plus de chances de survivre. Et c'est pour ça qu'il a organisé les soins le plus près possible des blessés. Donc des ambulances très près du front et où on pouvait soigner le plus rapidement possible. Il avait donc également, ça c'est Percy qui avait inventé ce qu'on a appelé la saucisse, la wurst, qui était un chariot sur lequel les infirmiers ou les médecins prenaient place et qui faisait le tour du champ de bataille, et quand il y avait un endroit où il y avait beaucoup de blessés, on débarquait un médecin, il pouvait les soigner directement. Donc tout ça, il y avait l'arrêt, Percy, Desgenettes, il y avait des médecins formidables, mais évidemment c'était une boucherie. Mais comme je dis, à l'époque napoléonienne, de par 20 ans de guerre, les soins aux blessés étaient supérieurs à ceux qu'on avait en 1914, parce que depuis, entre 1815 et 1914, on avait perdu de nombreuses bonnes pratiques pour soigner les blessés. Et quand je dis, donc, à Waterloo, 9% des blessés britanniques décèdent, en 14, c'est 8%. Donc, il n'y a pas une énorme différence. Mais évidemment, il n'y avait pas d'anesthésie, on ne connaissait pas les infections, et aussi, ce sont les maladies qui tuent beaucoup plus que les batailles. Est-ce que ça répond un peu à votre question ?
Oui, tout à fait.
Ce n'est pas une question, c'est une information. Monsieur Léon Bernard, ici présent, et moi-même allons guider une balade touristique, si on veut, sur le champ de bataille de Ligny et de Fleurus le 9 mai prochain. Il y a encore quelques places disponibles dans le car. Voilà.
Merci de vos informations et connaissant monsieur Léon Bernard, je peux dire que ça vaut la peine et je peux également annoncer qu'il vient de sortir les 3 premiers tomes de ses livres et ça a l'air une vraie merveille et c'est pour ça que je lui ai demandé de ne pas poser des questions sur la bataille de Ligny parce qu'il la connaît 10 fois mieux que moi.
Bien, rendez-vous donc à Ligny le 9 mai.
Le 9 mai.
Le 9 mai.
Mais il faut s'inscrire d'abord.
Il faut s'inscrire, ouais.
ASBL, ça m'arrange bien.
ASBL Samarabia, avec laquelle nous avons et nous entretenons toujours de bonnes relations entre le cercle historique de Jean Blou, Samarabia et le Cherchin. Autre question ? Dernière question ? Oui ? Allez, la dernière, et puis moi j'en aurai une petite.
C'est pas vraiment sur les combats, mais c'est après. Vous avez parlé de la terreur blanche en France. Vous avez dit que les Belges, ils étaient un peu des deux côtés. Est-ce qu'il y a eu des répressions ou des conflits en 15-16 en Belgique ?
Non, pas à ma connaissance, pour la bonne raison que, évidemment, ceux qui avaient combattu avec Guillaume, ils ont reçu des médailles. Les autres, eh bien, ils ont eu deux choix. La plupart ont choisi de rester en France. Gros problème, d'après une ordonnance de Louis XVIII de 1814, tous ceux qui appartenaient, qui étaient dans l'armée française, mais qui étaient nés dans des départements que la France avait perdus, étaient considérés comme des étrangers. Donc, y compris des généraux, ont dû demander leur naturalisation. Si longtemps que l'Empire existait, il n'y avait aucune raison de la demander, parce qu'ils étaient français. À partir du moment où tous ceux qui sont nés, par exemple, en Belgique, mais même ailleurs, étaient devenus des étrangers, ils ont dû demander au cas par cas, donc beaucoup, mais là, en signant l'allégeance à Louis XVIII, évidemment, et donc d'autres, il y en a d'autres qui sont rentrés en Belgique après ça, et à ma connaissance, il n'y a eu aucune représailles. puisqu'ils avaient combattu dans les rangs français en tant que français, il n'y avait pas de raison. Et donc, le problème, c'est les officiers qui ont demandé à intégrer, après 1815, l'armée hollandaise, ont perdu toute leur ancienneté qu'ils avaient, et donc ils se retrouvaient en avancement derrière des officiers qui étaient rentrés seulement à l'armée en 1814 ou même en 1815. Ça, mais ils ont été acceptés. Évidemment, il y a eu le problème ultérieur en 1830, l'allégeance à Guillaume ou à la Révolution belge.
On en reste là. J'avais une dernière petite question, peut-être la cerise sur le gâteau. Est-ce que vous pouvez confirmer que Grouchy a soupé à Jean Blou le 17 au soir? Est-ce que c'est possible d'abord?
C'est possible, mais je ne connais pas les lieux de station exacts de Grouchy, mais M. Nicourt, qui est présent, a écrit tout un livre qui va bientôt paraître sur Grouchy, donc il va se faire un plaisir de répondre à ma place.
Si ce n'est pas une question piège.
Donc, comme vous l'a dit M. Dimarmin, Grouchy en fait a bien séjourné à Jean Blou avant de poursuivre les Prussiens vers Wavre. Donc il s'est arrêté en fait dans la petite place de Jean Blou, où il a en fait séjourné avec une partie de son état-major, et après il a repris en fait le chemin pour aller vers Wallin, et il s'est arrêté en fait à la maison du notaire Oller, où il a séjourné. En fait il a attendu chez le notaire la canonnade venant de Waterloo. Donc bien sûr, on peut dire qu'il y a la cerise sur le gâteau, comme vous avez dit, les célèbres fraises de Grouchy. Je vous rassure, il n'a pas mangé de fraises à Wallin. Donc, il a bien entendu en fait la canonnette venant de Waterloo chez le notaire, mais en fait il a entendu non pas dans la maison du notaire, mais dans le petit bosquet qui se trouvait en fait à 300 mètres dans le jardin. Donc en fait il a entendu cette canonnade avec Vandamme et le colonel Balitus. Donc quand Gérard est venu le voir en lui disant qu'il fallait marcher à Waterloo, Boucher lui a dit, il n'en est pas question, je ne divise pas mes forces et je fonce à Wavre. Mais il s'est bien arrêté à Jean Blou. Il a appris en fait à Jean Blou que les Prussiens de Thielmann et de Bülow étaient passés par Jean Blou et faisaient leur retraite vers Wallin. Donc en apprenant ça, il a envoyé en fait un courrier à Napoléon lui disant « Les Prussiens sont passés par Jean Blou, ils vont vers Wavre et je vais à Wavre. »
Et aussi on reproche souvent à Grouchy de ne pas avoir marché au canon, mais je peux vous dire que même quand à 11h35 il entend les premiers coups, si à ce moment-là, suivant les conseils de Gérard, il prend toute son armée, il se dirige vers Mont-Saint-Jean, donc vers Waterloo, au plus tôt il serait arrivé vers 23h. À 23h tout était terminé depuis 2h, donc ça n'aurait absolument rien changé. Napoléon aurait dû le rappeler plus tôt. Ça c'est vrai, ça aurait pu faire une différence. Mais marcher au canon aurait été une ineptie, il serait arrivé tout trop tard de toute façon.
Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de fraises. Donc si je vous comprends bien, il n'a pas soupé à Jean Blou, mais il a peut-être, s'il avait été anglais, il aurait pris le thé. Quelque chose comme ça.
Du Saint-Gilles-Cavite, remarque, ce n'est pas au niveau de Grouchy, mais ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, les Prussiens, il y a eu pas mal de Prussiens qui ont séjourné à Jean Blou après, parce qu'on retrouve des bons de réquisition, et alors j'ai même des listes d'habitants de Jean Blou qui ont hébergé des Prussiens qui avaient été blessés lors de la bataille de Ligny. On retrouve évidemment aussi des bons de réquisition pas uniquement sur Jean Blou, mais à Hernage, et alors également à Corroy-le-Château. Donc on voit bien que la population a bien vécu le passage de l'armée prussienne, donc du 3e corps d'armée.
Merci pour ces précisions qui n'ont pas échappé aux membres du comité d'édition du bulletin du Cercle. Donc vous êtes invités éventuellement, si vous avez l'occasion, à nous faire un petit article sur la contribution des gens bloutois à l'hébergement des troupes de Blücher, si je comprends bien.
Et qui ont été cachés lors du passage après donc
de Grouchy. Bien. Eh bien, il me reste quelque chose d'agréable. Entrenons à tous de remercier notre orateur de ce soir et de vous demander, par vos applaudissements, d'exprimer votre satisfaction après ce que nous avons entendu. Il est de tradition que nous nous remettions avec présence. échantillon, c'est un échantillon de nos revues et de nos monographies.
Merci.
J'espère que vous en ferez.
Ça trouvera une bonne place dans ma bibliothèque, je ne vous en veux pas.
Il me reste à vous remercier de votre présence. Peut-être l'une ou l'autre petite information. D'abord pour les mordus, mais il y a des responsables d'associations napoléoniennes ici dans cette salle ou des amis de Ligny. Je vous invite à aller voir leur site. Je n'ai pas de mémoire, mais Ligny, c'est oui. Non. Enfin, il y a un site qui est consacré à la bataille de Ligny. Il y a beaucoup de manifestations qui sont prévues, je pense, aux alentours du 14, 15, 16, 17, 17 juin, également évidemment à Waterloo. Donc il y a de quoi.
Il y a des manifestations pour ceux que j'ai intéressés à Fleurus, donc au Château de la Paix.
Manifestation à Fleurus, Château de la Paix.
Oui, donc je vous rappelle, donc, le Château de la Paix, donc, c'est la dernière rue où en feu va passer le temps. Ça dépend de 8 ans, vraiment, les prémices de Waterloo. Et alors là, donc, au Château de la Paix à Fleurus, donc, il y aura une exposition. Et alors, on fera également une reconstitution de la chambre où l'empereur a passé sa dernière nuit victorieuse. Voilà, pour votre information.
Donc, manifestation à Ligny, à Fleurus, à Waterloo, à Wavre également, j'ai vu dans la dernière revue du cercle de Wavre, donc n'hésitez pas à les rejoindre si tout cela vous intéresse. Plus près de nous, en tout cas avant la campagne de juin, je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas encore l'information, à l'excursion traditionnelle annuelle que le cercle organise le vendredi de l'Ascension, c'est-à-dire le vendredi 15 mai. Et cette année, nous profitons de Mons, capitale européenne de la culture, pour nous rendre dans la région montoise avec, je vais résumer, la visite le matin, la visite du château d'Âtres. Et une visite guidée de cette demeure historique de style Louis XV, à midi le traditionnel repas au restaurant Le Vieux Chaudron, je ne sais pas très bien où c'est, une promenade pédestre dans la ville de Mons, ainsi qu'une visite du musée du baron François Duisberg. C'est le musée avec la collection de pendules, si je pense. Voilà, on m'a dit que c'est magnifique. Voilà. Pour une fin de journée vers 18h, 18h30, comme d'habitude, il faut s'inscrire auprès de la secrétaire, enfin vous trouvez ça sur notre site. C'est évidemment une excursion où chacun emploie son propre véhicule et chacun donc est libre d'organiser la journée comme il le souhaite, soit venir plus tard, soit repartir plus tôt s'il a d'autres obligations. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre présence et à vous souhaiter un bon retour.
Merci.